Eh bien, bonjour à vous et merci d'être là. Il paraît qu'il y a des embouteillages faramineux dans Paris. Donc, on va attendre un peu avant de vous diffuser le témoignage de la vidéo de Nasser que le shérif a trouvé et qui certainement vous fera pas mal d'impression. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette sixième année de l'Université populaire et shérif Khanzadar est notre premier grand témoin. Je vais vous demander l'autorisation de nous laisser passer au tutoiement. À la radio, à la télévision, on est obligé de se vouvoyer. C'est la règle, je ne sais pas qui l'a fixée, c'est une règle imbécile, mais en fait c'est comme ça. Mais ici c'est moi qui fixe les règles, donc je ne vois absolument pas pourquoi je vouvoierais quelqu'un avec qui je travaille depuis 1982. Car c'est en 1982 que nous avons commencé à travailler ensemble, toi et moi. Voilà, comme ça on sera plus tranquille. Alors, shérif Khanzadar, il se trouve précisément aujourd'hui où les dernières nouvelles sur Alep sont terribles, où les bombardements pleuvent sur la ville d'Alep. Shérif, tu es né à Alep. Est-ce que tu as des souvenirs de cette ville ou bien est-ce que tu es simplement né là-bas?
Non, j'y suis né et bien sûr j'en ai des souvenirs. J'en ai des souvenirs de ma toute tendre enfance, je dirais, parce que mes parents quittaient Alep alors que j'avais 4 ans. Donc avant les 4 ans, il ne reste pas grand-chose.
Mais quand même.
J'ai quand même un souvenir qui d'ailleurs se rattache un peu à ce qui se passe aujourd'hui. C'était Alep bombardé.
Déjà.
À l'époque, c'était les Français qui bombardaient Alep quand il y avait.
Oui, moi j'ai le souvenir d'avoir été bombardé par les Américains. Ces croche-pieds de l'histoire, voilà. Je les connais aussi.
Voilà. Donc, et mes parents qui allaient avec des amis se réfugier dans des grottes, dans les faubourgs d'Alep. Et là, ils se croyaient en toute sécurité jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans des grottes qui n'avaient pas 10 cm de terre au-dessus. Et tout le monde était accroupi sous ces grottes, etc. Donc, moi, je ne me souviens pas de 10 cm de terre, mais je me souviens des sorties où on partait à toute vitesse pour aller sous terre.
Il n'y avait pas de câble dans les maisons ?
Dans la maison où on habitait, ça, vraisemblablement pas. Il y en avait peut-être, mais peut-être que mes parents pensaient que c'était plus sûr d'aller dans ces grottes. Donc j'ai ce souvenir, mais j'ai aussi
Est-ce que tu peux peut-être rappeler pour l'histoire pourquoi le Français bombardait Alep à cette période?
C'était le moment de l'indépendance de la Syrie. C'est assez compliqué, d'ailleurs. Si on rentre là-dedans, c'est assez compliqué dans la mesure où la Syrie est devenue, a accueilli De Gaulle, qui a lutté contre l'Empire ottoman, bien sûr, parce que c'était les Ottomans. La Syrie faisait partie des alliés. Donc, il y avait ces bombardements de la guerre, en fait. Et puis ensuite, il y a eu l'indépendance, puisque la Syrie était sous mandat français jusqu'en 1946. L'indépendance, c'est 1946. Et donc, voilà, c'était la guerre. Et il paraît que lorsque j'étais bébé, justement, le général de Gaulle est passé sous la fenêtre de l'immeuble où je suis né, et qui a été un grand souvenir que me racontait toujours ma mère.
Et c'est pour ça que quand je t'ai connu, tu te définissais, je pense que c'est toujours vrai d'ailleurs, comme gaulliste de gauche.
Toujours, absolument.
Tout ça parce que de Gaulle est passé sous la fenêtre d'un bébé.
Et il est passé sous la fenêtre d'un bébé. Puisque tu parles des souvenirs d'enfance d'Alep, un dernier, je suis né dans un immeuble qui à l'époque était un des plus hauts, je crois, d'Alep. Et sur le toit de cet immeuble, sur une terrasse, c'était l'immeuble qui s'appelait l'immeuble Jamal, que je suis retourné voir, qui existait toujours jusqu'à il y a quelques jours, je ne sais pas s'il est toujours là, et qui est tout près ou face à un hôtel très, très célèbre, qui est l'hôtel Baron, auquel je suis allé également, et l'hôtel Baron est célèbre aussi parce que le général y a couché, mais aussi il a accueilli, qui habitait là, dans ses voyages, dans ses allers-retours, Agatha Christie. Et si tu veux, je te reparlerai d'Agatha Christie tout à l'heure, parce qu'il y a un autre souvenir lié à Agatha Christie.
Non, maintenant ?
Maintenant, bon. Alors, Agatha Christie était la femme d'un grand archéologue, c'est Max Mallowan, qui faisait des fouilles dans ce qu'on appelle le Jésiret syrien, c'est-à-dire du côté de Hasaké. Et il travaillait en principe, principalement sur un tel qui s'appelle le tel...
Qu'est-ce que c'est un tel ?
Un monticule.
Une petite colline.
Petite colline. Il y en aurait 500. 500 dans la région. Et ce tel Braque est un des plus célèbres et il a travaillé là de 1937 à 38-39. Et Agatha Christie donc allait l'accompagner et revenait à Alep et puis retournait dans le désert. Mais nous reparlerons de ce tel plus tard parce que c'est un endroit absolument fabuleux. D'ailleurs, je crois qu'on ne le connaît peut-être pas sous son nom, mais c'est là où on a trouvé les idoles aux yeux. C'est là qu'il y avait le temple des yeux. Tu sais, ces merveilleuses sculptures où les têtes ne sont que des yeux. Il y en a au Louvre, il y en a dans les grands musées, c'est une merveille.
Il y en a aussi au Mexique.
Pardon ?
Il y en a aussi au Mexique, c'est pour ça que je vous... Parce que c'est
non, principe non, de non, la c'est tête pas ça, c'est juste ces deux paires d'yeux, c'est une paire d'yeux par tête, et puis tout le reste est stylisé, en fait, c'est juste ça. On a trouvé plusieurs milliers d'elles dans ce temple qui s'appelle, donc, qu'on a appelé le temple des yeux. Voilà, donc... c'était pour te dire les souvenirs d'avant. Alors Agatha Christie, bon, elle a accompagné son époux sur ce lieu de ses fouilles et où elle situe d'ailleurs un certain nombre de ses romans qui sont ou là ou dans les autres fouilles qu'il a faites en Égypte et ailleurs.
Mais tu l'as rencontrée, Agatha Christie ?
Non, je n'ai pas pu la rencontrer. J'aurais pu peut-être, mais non, je n'ai pas eu cette. J'ai vu comme tous ceux qui vont dans cet hôtel sa chambre.
Est-ce que tu souhaites parler du problème syrien, enfin du problème de la guerre en Syrie maintenant, ou est-ce que tu préfères qu'on en parle plus tard ?
C'est comme tu veux. On peut en parler maintenant, puisqu'on parle de j'ai évoqué Tel Braque. Et quand on arrive dans ce lieu, où j'ai été il y a 7 ou 8 ans, c'est un lieu désertique. D'abord, c'est une colline, on monte, et puis on arrive là, et puis il y a des fouilles. Il n'y a rien de spectaculaire, hein. Il n'y a pas de monument, il n'y a rien de spectaculaire. Et là, j'ai rencontré une dame, qui aurait pu être Agatha Christie d'ailleurs, qui est une dame qui devait avoir plus de 80 ans, et qui m'a accueilli très gentiment, je ne sais pas qui j'étais, en passé. Elle m'a dit qu'elle était l'épouse de l'archéologue qui avait succédé à Mellogan et qui était décédé, et qu'elle avait obtenu des autorités syriennes le droit de rester, de continuer les fouilles. Elle m'a dit, mais si ça vous intéresse, venez, je vais vous montrer. Et donc, j'ai été avec elle. On est arrivé dans une sorte d'excavation où il y avait rien. C'était un trou. Elle m'a montré, elle m'a dit, écoutez, on vient de découvrir quelque chose de fantastique. Et mon mari, il avait toujours été persuadé de cela, et puis il attendait d'avoir les preuves, et je crois que nous les avons. On vient de trouver le cinquième millénaire. Elle m'a montré, et ça représentait, si tu veux, dans une coupe comme ça, dans la pierre, ça représentait 10 centimètres qui étaient au niveau du sol, qu'ils allaient creuser. C'est le cinquième millénaire. Et c'est-à-dire les cultures et les civilisations qui se sont succédées dans ce pays. Elles sont toutes passées par là.
Et au cinquième millénaire, c'était quoi ?
5000 avant Jésus-Christ.
Oui, merci. Ça, j'avais compris. Mais qu'est-ce qui se passait dans cette région qui s'appelle aujourd'hui Syrie ?
Alors là, je serais capable de te le dire, parce que tout y est passé, hein, depuis les Mésopotamiens, les Acadéens, les Assyriens, les Phéniciens, enfin, tout le monde est passé. Et toutes ces civilisations, donc on a des traces, il reste quelques éléments qu'on va retrouver dans les musées ou dans les monuments qui sont encore debout aujourd'hui, me font penser que cette terre qui a connu toutes ces cultures, toutes ces civilisations, et que ces cultures, ces civilisations ont passé leur temps à se détruire, à se faire la guerre. On aurait retrouvé, d'ailleurs, dans ces telles, je disais ça il y a un an dans un journal, un boulet de canon qui remontait, je ne sais pas à quel millénaire, qui serait la première preuve d'une guerre, d'une attaque, etc. Et tous ces peuples se sont entretués pendant des millénaires.
Donc ça continue.
Ça continue. Et la Syrie, qui a été détruite.
Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire ? Ça continue, tu veux vraiment dire ça continue ?
Ah, ça continue, oui. Oui, oui, ça s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais arrêté, ça a toujours, il y a toujours eu. Alors, on les voit maintenant, celles qui sont passées il y a 5 000, 6 000 ans, elles ont duré assez longtemps, puis c'était pas tous les jours, etc. Donc, je me dis que finalement, il y a quelque chose de plus fort que l'événementiel. Il y a quelque chose, la Syrie pour moi, est quelque chose qui est ancré dans l'histoire depuis toujours et qui restera la Syrie. Et il y a, c'est plus fort que des bâtiments, c'est plus fort que des individus, c'est une âme, c'est quelque chose de très profond qui fait que, bon, peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup va être détruit, mais l'âme de la Syrie ne sera pas détruite.
Et si tu devais la définir, tu la définirais comment, cette âme ?
Écoute, comment définir une âme ? Comment définir quelque chose qui fait que, et ça je m'en rends compte de plus en plus, si tu veux, en étant loin de ce pays depuis maintenant plus de 50 ans, qui fait que, entre Syriens, on se retrouve. Il y a quelque chose qui fait qu'on a une certaine sensibilité, quelles que soient les origines, quelle que soit la classe, quelle que soit le... Il y a une... C'est une famille, quelque part, qui s'entre-déchire, qui s'entre-tue, mais il y a cette chose indéfinissable, je dirais. Bon, qu'est-ce qui fait, par exemple, on parle d'Alep, qui est martyr aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'à Alep, dans la succession de ces civilisations, de ces guerres, de ces destructions, de tout ce qui est passé dans cette ville, il est resté un sens, un amour, une oreille pour la musique. Pourquoi est-ce que cette ville est la ville de la musique ?
Qu'est-ce qui fait ? Depuis quand, en fait ?
Oh, bah depuis très 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 longtemps, je veux dire, depuis, bon, je ne veux pas remonter très très loin, mais depuis qu'il y a des traces, je dirais, écrites de musiciens, de chanteurs, de poètes, surtout, c'est à Alep qui était la grande référence pour cette partie du monde, je veux dire. Donc, pourquoi ? Pourquoi là et pas ailleurs ? Pourquoi, et comment est-ce que ça, tout cela s'est transmis ? Ça ne s'est pas transmis de père en fils, de maître en élève. Il y a quelque chose d'autre qui a fait que, dans cette ville, il y a une sensibilité particulière pour la musique et la poésie. Enfin, moi, je le sens comme ça.
Et quelque voilà. chose qui n'est pas à Damas.
Pardon ?
Quelque chose qu'on ne trouve pas à Damas.
Non ? Non, à mon avis, non. Pourtant, moi, j'ai surtout vécu à Damas et j'aime Damas peut-être plus qu'Alep, puisque c'est la ville où j'ai passé toute ma jeunesse. Mais même à Damas, on reconnaît que la musique est à Alep.
Alors, l'enfance à Damas maintenant.
Alors, l'enfance à Damas est une enfance pour moi heureuse, dans la mesure où j'ai grandi dans une famille qui était, je dirais, harmonieuse. Mon père, bon, je crois que c'est dans les textes, donc je ne vais pas me répéter, mon père était donc syrien, musulman.
N'est pas dans les textes, c'est la signification du mot Khaznadar.
Ah bon, alors je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse.
Une petite parenthèse.
D'accord, bon. Tu vois, dans cette partie du monde, jusqu'à l'Empire ottoman, les familles s'appelaient comme... Toujours aujourd'hui, en Arabie Saoudite ou en Égypte, etc., c'est un tel fils d'un tel. Donc, ça peut être Mohamed, fils de Shérif, fils de Ashraf, fils de, etc. Il n'y a pas de nom de famille. L'Empire ottoman a institué les noms de famille. Donc, a donné, dans le 19e siècle, par là, au début du 19e, fin 18e, je ne peux pas dire exactement, mais dans cette période-là, a imposé à tous les États qui étaient sous la domination ottomane, d'avoir des noms de famille. Donc, on a donné des noms, comme partout dans le monde, la fonction, l'aspect physique, la ville d'origine, etc. Il se trouve donc que l'un de mes aïeux était ce qui est l'équivalent du ministre du Trésor de cette province d'Alep, parce que le mot veut dire, était le titre du ministre des Finances de cette région.
Qui serait en gros le trésorier payeur général en France.
Oui, ce serait le voilà, ce qui tenait les finances. Alors, Dans la famille, bien sûr, on dit c'était sa fonction, mais qu'il était arabe. Mais les recherches que j'ai faites depuis m'incitent à penser qu'il devait quand même avoir des origines turques, dans la mesure où l'Empire ottoman confiait tout aux locaux. Il n'y avait pas c'était pas une occupation de tout, mais il gardait deux choses, l'armée, la sécurité, l'intérieur, l'armée et les finances. Donc voilà. Donc il y a un point d'interrogation sur les origines. Il y a plusieurs siècles ou trois de l'arrière-arrière-arrière-grand-père.
Et ta mère était française.
Ma mère était française. Limousine et.
Et comment se sont-ils rencontrés?
Mon père était venu faire ses études de droit à Grenoble. Et ma mère travaillait à l'époque à Voiron, je crois. Et ils se sont rencontrés, ils se sont rencontrés à cette époque. Et c'était le grand amour. Et mon père est rentré avec ma mère en Syrie en 1934. Ils ont eu un enfant à Antioche, puisque mon grand-père était le grand cadi d'Antioche. Donc le juge religieux d'Antioche, qui était syrienne à l'époque. Ils sont restés. Et puis ensuite, lorsque Antioche a été rattachée à la Turquie, ils sont rentrés à Alep. Et ensuite, lorsque la Syrie est devenue indépendante, mon père, qui était fonctionnaire, est allé à Damas, qui était la capitale.
C'était une famille religieuse?
Mon grand-père était chef religieux.
Ton grand-père, forcément. Oui.
Nous n'avons jamais eu une éducation religieuse. Ni moi, ni mes frères, ni ma sœur. Nos parents nous ont laissé la liberté totale de choix. On vivait dans les deux religions. Sans les pratiquer, moi, par exemple, j'ai jamais fait le jeûne. Mais j'allais à la mosquée pour les fêtes avec mon père, j'allais voir mon grand-père. On faisait un arbre de Noël auquel mon...
Mais ça, c'est totalement païen, l'arbre de Noël, comme tu sais.
Pardon ?
L'arbre de Noël, c'est totalement païen, comme tu sais.
C'est totalement d'origine, totalement païenne, tu as absolument raison, mais c'était devenu... Et la messe de minuit, etc. Donc, on a vécu dans les deux religions. Ma mère n'était pas pratiquante. Ma mère était vraiment issue d'une famille laïque. Je crois que c'est elle qui nous a aussi influencé cette laïcité moi, je ne veux pas parler pour mon frère qui est là, mais s'il la partage. On a été à l'école, la mission laïque de Damas. Ça n'a jamais été un problème pour moi.
Qu'est-ce que c'est la mission laïque? Parce que ça a joué un très grand rôle qui n'est pas forcément toujours très connu.
C'était une école française qui avait des branches. Alors il y avait, si tu veux, dans ces pays, il y avait les jésuites, il y avait les maristes, il y avait les franciscaines, il y avait plusieurs missions qui avaient des écoles françaises. Il y avait cette mission laïque, qui justement, comme son nom l'indique, n'était pas du tout une mission religieuse. C'est-à-dire qu'elle pouvait en même temps accueillir des élèves qui n'étaient pas nécessairement chrétiens. Les autres écoles, c'était essentiellement fréquenté par des enfants chrétiens. Mais là, il pouvait y avoir... Donc, ce qui fait que dans cette école où j'étais, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, et puis voilà, il y avait tout le monde. Et il y avait un enseignement, un double enseignement, en français et en arabe. Ce qui fait que nous avons
Comment ça double? Il y avait des cours en arabe d'un côté et des cours en français?
Oui, on faisait tout en double. C'est-à-dire, tout en double. C'est-à-dire qu'au lieu un enfant français, d'enseignement français, il aurait eu un cours de géographie, un cours d'histoire, un cours de maths, un cours de trucs. On avait deux cours d'histoire, deux cours de géographie, un cours d'histoire française.
Sur exactement le même contenu?
Non, puisque le cours d'histoire française, c'était histoire de la France. Le cours d'histoire arabe, c'était histoire du monde arabe.
Mais la géographie, par exemple?
La géographie aussi, c'était des différences. C'était dans les deux langues. Ce qui fait qu'on a eu un cursus, si tu veux, depuis l'école primaire jusqu'au baccalauréat, dans les deux branches. Et, Et donc, des gens de ma génération, tout ça, nous avons passé deux baccalauréats. Il y avait le baccalauréat français et le baccalauréat arabe. Et pour compliquer, moi, j'avais fait le baccalauréat philo en français et mathélème en arabe.
Et pourquoi ?
Parce que tout m'intéressait, donc j'ai cumulé les deux.
Ça témoigne quand même d'un goût de la complication que nous retrouverons, je pense, par ailleurs.
Peut-être.
Ça, ce sont les études secondaires. Et à l'époque, Damas, c'est une ville entièrement pacifiée.
Oui.
C'était comment ?
Ben, écoute, ça n'a pas beaucoup changé, le cœur même de Damas, enfin le centre de Damas n'a pas du tout changé. Ce qui s'est passé depuis, c'est que ça s'est étendu énormément, ce qui était les faubourgs, c'est devenu la ville, enfin, comme partout dans le monde, je veux dire, une ville en 40 ans, 50 ans, elle évolue. Mais c'était une ville architecture, il y avait deux villes en fait, il y a la vieille ville avec la ville historique, qui a été bâtie sur des fonds romains, qu'on retrouve aujourd'hui et sur d'autres encore plus anciens, mais bon, qui était une ville donc de style arabe puis ottoman, on a beaucoup d'influence ottomane par la suite. Et puis il y avait la ville coloniale avec qu'on appelait la ville moderne. C'était des
non pas blanche comme à Pondichéry, mais une moderne.
Moderne, non pas blanche, avec un style quand même très très agréable de pierre. Enfin, c'était une belle ville.
Oui, j'étais en train de me demander si tu as tenu à nous faire, à nous apporter ce document sur Nasser. Je pense que j'ai pas voulu en prendre connaissance avant d'être ici.
Alors je vais te raconter sur ce document.
Parce que je pense que c'est le signal d'une époque que tu veux montrer.
Pardon.
C'est le signe d'une époque que tu
oui,
veux montrer.
Oui, voilà. Parce que le contexte, c'est la semaine dernière. Donc, comme il y avait une émission sur RFI pour annoncer cette rencontre, on m'a demandé parmi les questions quelles sont j'aimerais entendre de mon enfance. Or, il se trouve que cette période que j'ai vécue à Damas, il y avait un son qui revenait tous les jours, tout le temps. C'était la voix de Nasser. C'était ses discours, c'était tout ça. Alors, j'ai dit, bon, j'aimerais entendre Nasser. Alors, quoi ? Mais où trouver un document sur Nasser ? Alors, j'étais tout bêtement sur YouTube. Et puis, je suis tombé sur ce document.
Alors, est-ce qu'on peut la voir ?
كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب طلب ايه اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح كل واحدة تمشي وانا قلت لهم يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل وأنا في رأيي أن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام فقال لي لا أنت باعتبارك الحاكم مسؤول قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة ما لبستهاش طرحة ليه ده كنت انت اذا كنت انت مش قادر تلبس اذا كنت انت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة عايزنا ننزل نلبس 10 مليون طرح في البلد نفسي
C'est absolument incroyable. Mais j'ai cherché des femmes dans l'assistance. Est-ce qu'il y en avait? Pas là. Hein. Est-ce qu'on peut avoir l'image encore une fois? Est-ce qu'on pourrait retomber sur l'image de la foule qui écoute? On entend des rires qui pourraient être féminins, mais est-ce qu'il parlait devant que des hommes ou bien est-ce qu'il y avait des femmes?
Donc je crois avoir aperçu des femmes.
Bon, d'accord.
Dans les premiers rangs, mais habillées à l'occidentale.
Oui, je me doute.
Voilà. Bon, c'était il y a 53. Donc, tu vois, le retour en arrière qu'on est en train de faire, qui est en train de se passer dans cette partie du monde.
Oui, parce qu'en plus, ça lui paraît, à lui et à l'assistance, complètement risible.
Complètement risible. Mais il ne faut pas oublier que là, qu'il y avait toute cette partie du monde a connu ce qu'on appelle la Renaissance, Narda et tout ça, c'était... Et on était en plein... C'est pour ça que, quand tu me poses la question comment c'était Damas dans ces années-là, bon, j'ai rien de pittoresque à raconter sur Damas, parce que c'était comme pouvaient être les autres villes, tout ça. Et il y avait cette liberté... Je ne peux pas dire liberté, mais cette tolérance, j'aime pas le mot tolérance, que je ne veux pas employer, parce qu'il est, il a d'autres implications, mais il y avait le fait que les gens cohabitaient, coexistaient dans leurs différences, et là, on voyait, ouais, l'Égypte était un pays qui portait le voile, paraissait complètement absurde, alors qu'aujourd'hui, il est imposé.
Pas encore.
Il est en train de l'être.
Ça ne va pas tarder, mais c'est pas fait encore. Hein,
dans certains domaines, si. Est-ce que tu as lu dans la presse les déclarations de la dame qui est au gouvernement? Parce qu'il en a rajouté une récemment.
Oui, il y en a toujours une comme ça.
Oui, et ce qu'elle disait à propos de l'excision.
Oui.
Où allons-nous? Et malheureusement, ce n'est pas que l'Égypte. C'est en train de se répandre.
Je me souviens avoir accueilli à Vienne Simone Veil, qui revenait de la dernière conférence de l'ONU sur les femmes. Ça doit remonter aux années 90. Ça devait être 94 ou 93. Et elle avait été absolument sidérée. Elle représentait le gouvernement français, la France en tout cas, à la conférence de Pékin. Et il y avait eu une alliance entre le Vatican et l'Iran pour demander que cette conférence, c'est-à-dire un thème qu'on voit ressurgir régulièrement, que cette conférence sur les droits des femmes se transforme en conférence sur les droits de la famille. Et cette alliance-là est une alliance qui est toujours active entre l'Iran et le Vatican pour transformer les droits des femmes en droits de la famille. Donc ça date... Le tournant s'est pris... en 1979, c'est là que ça a tourné. Au moment où l'Ayatollah Khomeini est revenu de Nonfle-le-Château, obligeamment véhiculé par Giscard d'Estaing. Mais de cette situation... Alors, est-ce qu'il y a des femmes là-dedans? Oui, ça y est, j'en vois une. Au moins une. Comme aurait dit Lacan, au moins une. Et Nasser avait... Mais pourquoi est-ce qu'on entendait la voix de Nasser? On n'entendait pas la voix de leader syrien à l'époque?
Non, parce que à l'époque, il y avait Nasser qui était très très présent dans le monde arabe, et puis il y a eu l'union entre la Syrie et l'Égypte, la création de la République arabe unie dans 58-59. Et donc, il y avait cette présence de Nasser très, très présente. Et il faut reconnaître qu'il avait beaucoup plus de charisme pour passer à la télé.
Il avait un charme incroyable.
Il avait beaucoup de charisme, en effet, oui. Voilà, donc c'était une voix qui était très... qu'on entendait souvent, comme la voix d'Oum Kalsoum, d'ailleurs, pratiquement tous les jours à la télévision. Mais elle est plus connue. Donc, c'était plus intéressant d'avoir ce document que l'autre.
Oui, et maintenant?
Et maintenant, pardon. Maintenant, tu veux dire...
Et maintenant, où va-t-on? Tu le disais tout à l'heure.
Ben, où va-t-on? J'espère qu'on ne va pas dans, justement, cette prise de pouvoir des... on appelle ça les salafistes, je dirais des intégristes, des réactionnaires, des gens qui, des terroristes quelque part, qui sous prétexte de l'islam, commettent des ignominies. Bon, ce n'est pas l'islam que je connais, ce n'est pas l'islam que beaucoup de musulmans, la grande majorité des musulmans connaissent. Ça n'a rien à voir, c'est des forcenés, des fous qui sont là, et qui, on le voit d'ailleurs, bon, il commence à y avoir un peu, on les reprend un peu en main en Égypte, peut-être un peu aussi en Libye, mais ils sont extrêmement dangereux, c'est eux qui font le fond de l'Al-Qaïda, et même s'ils sont très peu nombreux, ils peuvent être très dangereux. Et voilà, je crois que c'est le danger à éviter. C'est le pire des dangers, c'est le fanatisme, c'est vraiment l'exclusion de l'autre, le refus de l'autre, dans ses formes les plus violentes.
Et tu as pourtant beaucoup, surtout dans la période récente de ta vie, travaillé avec des pays arabes, presque tous.
Oui, absolument.
Pour y faire quoi ? Après quoi, on tournera la page arabe.
Oui, j'ai beaucoup, parce qu'il y a dans le monde arabe, il y a un patrimoine culturel fabuleux. Et donc, avant que l'Institut du monde arabe ne soit créé, je me suis beaucoup intéressé pour faire connaître cela. Mais depuis que l'Institut est créé, il a fait, c'était sa mission, et il l'a fait merveilleusement. Là, il fait un travail énorme. Je vois là des responsables de l'Institut qui est ici. Je tiens à le saluer parce que, ils ont fait énormément pour montrer justement ce qu'est la culture arabe, qui n'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on entend aujourd'hui, ce que des hurlements qu'on a dans les foules. Et donc, je suis resté toujours attaché à découvrir et à connaître ce qui se passe dans cette partie du monde. Et notamment, là, ces dernières années, je me suis occupé d'essayer de créer un centre pour les musiques dans le monde de l'islam. Parce que...
Un centre qui est installé où ?
Dans les Émirats.
Dans les Émirats.
Parce que, justement, on dit souvent que la musique n'est pas compatible avec l'islam. Dans tous les pays musulmans, il y a des musiques différentes, des musiques d'une richesse merveilleuse qui ont toujours été cohabitées avec l'islam, je veux dire. Et c'est une vision vraiment très, très salafiste à ce moment-là de dire non, la musique n'est pas incompatible. D'ailleurs, le traité que je vous recommande de lire, d'ailleurs, c'est un monument de Ibn Taymiyyah, qui est un des grands idéologues de l'islam salafiste, sur la musique, est très, très édifiant. C'est que toute la musique est absolument interdite. Alors,
oui, les zigomars de je ne sais plus lesquels des quatre groupes intégristes au Mali ont interdit la musique. C'est fait depuis déjà maintenant 3 semaines, un mois.
Tout à fait.
C'est l'une des premières décisions prises.
Oui, ça fait partie, font partie de cette
tendance. Et en Afghanistan, ils ont été jusqu'à tuer les oiseaux.
Oui. Voilà, donc c'est pourquoi je me suis intéressé, je m'intéresse toujours donc à découvrir et faire connaître toute cette richesse, tout ce patrimoine extraordinaire. Tu sais, bon, je vais faire une parenthèse. Il y avait en Occident, hein, en France, si tu veux, hein, alors ils ne sont pas trop, mais en France, au début de ce siècle, jusque dans les années 50, 60, on connaissait mal les musiques du monde. Il y avait quelques...
On va y venir, parce que c'est toi, oui. Tu incarnes ça.
Non, mais c'est pour te faire une parenthèse sur la musique arabe. Hein.
Oui.
Et je me souviens qu'il y avait... tu as peut-être connu Alain Danielou, qui s'occupait de l'Institut de musique comparée à Berlin et à Venise, etc., qui fait un énorme travail avec l'UNESCO sur les musiques, et qui considérait...
Que les Indiens considèrent comme un mauvais musicologue et un escroc.
Alors, il considère...
Et dont le travail sur le sanskrit vient d'être démoli par un de ses disciples.
Je ne connais pas son travail sur le sanskrit.
Et Alain Danielou, dont je tiens à préciser qu'il a été l'un des fondateurs du parti néo-nazi, oui, indien. Bon, ferme la parenthèse.
Oui, mais alors, tout ce que tu dis est très important.
Bah oui, bien sûr.
Dans
bien.
La mesure où il était quand même, à l'époque, je dirais dans les années 60, 70...
Oui, c'était
70,
un facho très connu.
Une des sommités de, dans ce domaine de la musique, de faire connaître en France la musique indienne, notamment, c'est lui qui avait cherché. Et il y avait, pour lui, la musique indienne était une musique noble, classique, c'était classique, hein, se limiter à Dhamal Krishnapatamal, à ce style-là, et la musique arabe n'existait pas. Et ça, il me l'a dit, il nous disait, c'est du bruit, il n'y a pas de
mais
musique
une
arabe.
Mais pour une raison idéologique très importante, c'est que Alain Danielou, c'est pas par hasard qu'il a été fricoté avec les nazis indiens, dont peu de gens connaissent l'existence, c'est parce qu'il est, ça véhicule l'idéologie des Aryens. Il n'y a de musique noble que celle qui est des Aryens. Donc les Arabes là-dedans, évidemment, tout ça est très logique. On ne connaît pas cet aspect sombre d'Alain Danielou. Mais il est terrible. Quand on va en Inde, il suffit de parler d'Alain Danielou avec des historiens sérieux ou avec des musicologues sérieux et ils poussent des hurlements. Pour eux, c'est l'équivalent de, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Marine Le Pen. Voilà.
Oui. Mais je dirais que ça ne se limitait pas à Alain Danielou. Je cite Alain Danielou comme une des personnalités qui pouvait incarner ce rejet de la musique arabe. Mais c'était général. Il n'y avait pas de concert de musique arabe. Bon. Il y a eu le grand congrès de musique arabe du Caire, mais c'était au Caire qu'il a eu lieu avec des participations. Il y avait quelques spécialistes étrangers qui étaient là. Et donc, dans ces années 70, lorsque j'ai créé le Festival des Arts Traditionnels, il n'y avait pas de vraie reconnaissance de la musique arabe. Même ce qu'aujourd'hui on adule ici, M. Kalsoum, tout ça, à l'époque, c'était du bruit. Et c'est là que j'ai vraiment voulu mener une action pour faire connaître cette musique, et dont l'ambassadeur pour moi était Mounir Bachir, l'Irakien, le joueur de oud, qui a été merveilleux et qui a joué ce rôle un peu de fer de lance de la musique, mais c'est-à-dire que la musique arabe avait son droit d'exister, avait été ce qu'elle était.
Et qu'est-ce qui va arriver à la musique arabe maintenant ?
Oh, je crois que là, elle ne risque rien. Là, elle est maintenant,
elle est sanctuarisée,
en plein essor, en pleine évolution. Elle a des bases très solides. Enfin non, je crois que là, il n'y a rien à craindre pour la musique arabe.
Revenons maintenant à la partie Limousine, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu vas faire d'abord des études à Beyrouth avant de gagner la France. Et j'ai été très surprise puisque je t'ai posé la question il y a quelques jours. Je t'ai demandé, mais t'as fait des études de quoi, au fait?
Oui, non, j'ai pas été à Beyrouth tout de suite, j'ai été aux États-Unis parce que je t'ai dit j'ai fait deux bacs et mon anglais était très très faible et donc j'ai été faire un an d'anglais aux États-Unis dans un programme d'échange d'étudiants et qui m'a marqué d'ailleurs et là j'insiste beaucoup, c'est une chose absolument. Je crois que j'étais le premier arabe à participer à ce programme qui avait été monté par un brancardier de la Deuxième Guerre mondiale, un Américain, Stephen Galati, qui était venu en Europe, qui avait vécu la guerre, et qui s'était dit en rentrant, si les jeunes de tous ces pays du monde se rencontraient, vivaient ensemble, il y aurait peut-être plus de guerre. Et il a monté ce programme d'échange où il faisait accueillir par des familles américaines pour une année scolaire, ça existe toujours d'ailleurs, hein, pour une année scolaire, des enfants, des jeunes entre 16 et 18 ans de tous les pays. Et en plus, donc, non seulement on vivait dans une famille américaine pendant un an, donc ils apprenaient à nous connaître et nous à connaître leur mode de vie, etc. Mais en plus, on se rencontrait entre nous, ce qui fait qu'on arrivait à connaître beaucoup. Et je trouve que ce programme, pour moi, était essentiel dans la mesure où, là aussi, j'ai découvert l'autre. J'ai découvert la possibilité de pourquoi on était tous différents, etc. Mais tous pareils. Et donc, c'était très important. Et à mon retour, donc, des États-Unis, j'ai été poursuivre mes études à l'Université américaine de Beyrouth, où j'ai fait ce qui t'a surpris, ce qu'on appelle Business Administration.
Ah oui, c'était la dernière chose que j'attendais. Ça,
l'administration commerciale, si tu veux, ou de l'administration des affaires. Et j'en suis profondément reconnaissant à mon père, qui m'avait dit à mon retour des États-Unis, alors que je voulais faire des études d'art, de théâtre, etc., il m'a dit, tu fais des études sérieuses, après tu fais ce que tu veux. Et donc...
Ce qui veut dire que tout le reste, c'est pas sérieux ?
C'est pas sérieux. Il m'a dit, tu fais quelque chose de sérieux. Et donc, j'ai obéi à mon père et j'ai fait Business Administration et j'en suis éternellement reconnaissant. car c'est ces connaissances qui m'ont permis de, par la suite, de pouvoir diriger des institutions culturelles et de gérer des budgets et de ne pas me trouver perdu, comme c'était le cas il y a 40 ans, quand j'ai commencé dans ce métier, où les gens de spectacle, alors maintenant ça a beaucoup changé, maintenant il y a des écoles, des universités qui apprennent tout ça, mais à l'époque, les gens de spectacle ne savaient pas gérer.
Ça a changé quand s'est ouvert à Dauphine un cycle d'enseignement de l'administration culturelle, ça doit monter à 30 ans maintenant.
Je ne pourrais pas dire exactement, mais ça a commencé là, mais je veux dire, dans les années 60, 70, au moment de la création des maisons de la culture, il y avait toujours cette dichotomie entre l'artistique et l'administratif.
Oui, ça existe encore. Un petit détour par Beyrouth quand même. Comment était l'université de Beyrouth à cette époque?
Beyrouth était le Liban à l'époque était considéré comme la Suisse du Moyen-Orient. C'était d'ailleurs on l'appelait comme ça, parce que c'est là que se retrouvaient tous ceux qui fuyaient des régimes qui changeaient. D'ailleurs, il y a des coups d'État de tous les ans, tous les deux ans, à droite, à gauche. Et donc, les opposants venaient se retrouver à Beyrouth, rencontrer les autres, etc. Et donc, c'était un lieu.
Il y avait des coups d'État à droite, à gauche, tous les deux ans. Et ça paraissait normal, si je continue.
Ah, c'était, oui, les gens venaient, puis deux ans plus tard, ils revenaient au pouvoir, ils chassaient les autres qu'ils avaient rencontrés dans les mêmes cafés. C'était vraiment une pour moi, c'était une des très très belles années de ma vie, ces trois ans à Beyrouth, où j'avais l'habitude, ça va t'amuser, de me promener, d'avoir sur moi trois paquets de cigarettes. Parce que quand j'étais à l'université américaine, quand on sortait avec les copains, je fumais des Marlboro. Et quand j'étais, parce que je m'étais aussi inscrit à la fac des lettres, pour pas faire les choses simples. Et quand j'allais avec les copains à la fac des lettres, j'avais mes gauloises.
Et quand, les troisièmes, c'était quoi?
Eh ben, c'était les bafras. C'était les cigarettes locales. Parce que j'allais voir aussi, dans la partie de côté de l'université libanaise, les autres copains. Donc, voilà. Et tout ça se mariait très bien. Je ne fume plus d'ailleurs ni les bafras ni les gauloises. Donc, c'est une période. Je veux dire, bon, quand on la raconte aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer ce que ça pouvait être, ce foisonnement d'artistes, d'intellectuels qui venaient de tout le monde arabe, qui étaient là, qui étaient réfugiés, des fois qui ne l'étaient plus, qui revenaient après, quand ils étaient au pouvoir, on se retrouvait là. Et c'est là, je dirais, que j'ai commencé vraiment tout ce qui est ma vie culturelle.
Alors comment?
Parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Donc j'ai commencé par faire des articles, écrire des articles dans un journal, un supplément littéraire, L'Orient littéraire, un supplément du journal L'Orient, qui était dirigé par un personnage fabuleux que j'aime beaucoup, c'est le grand poète Salah Stétillé, qui était rédacteur en chef de ce supplément et qui avait comme secrétaire de rédaction André Berkoff. Et donc j'ai fait des correspondances sur ce qu'était le théâtre en Syrie, ce qu'était la musique en Syrie, ce qu'étaient les arts plastiques en Syrie, faire connaître les plasticiens syriens aux Libanais qui ne les connaissaient pas. Il n'y avait pas eu des gens. Et j'ai organisé la première exposition de peintres syriens au Liban, avec des peintres qui sont aujourd'hui devenus très, très connus, très célèbres, très très grands peintres, et en même temps qui étaient devenus des amis. Et donc j'étais dans ce milieu littéraire qui, en même temps, on accueillait tous les artistes qui venaient d'étranger. On allait soutenir Catherine Sauvage quand elle est venue faire son tour de chant, quand on allait avec Brasseur, avec Aznavour, tout ça. Et on les rencontrait, on écrivait des articles. Bon. Donc j'étais plongé dans ce milieu. Ce qui m'a amené, comme je voulais faire du théâtre, j'ai créé à l'université américaine le premier spectacle en français, en montant Caligula et en jouant Caligula.
Celui de Camus?
Oui, de Camus.
Et tu jouais Caligula?
Oui.
Oh, ça devait être formidable, ça.
Et ce qui fait qu'à l'université Saint-Joseph, on a créé un centre universitaire d'études dramatiques, dont j'ai été le président, pour promouvoir le théâtre. Et là, on a monté, en attendant Godot, avec l'aide dans la, auprès de nous, parce qu'on était des jeunes, il y avait grand metteur en scène Jalal Khoury et moi qui est Meudion, qui jouions les deux rôles d'Estragon et Vladimir, et notre conseiller, c'était Georges Chéadé. Chéadé, Georges Chéadé, parce qu'il avait connu, enfin il connaissait Beckett, donc il venait nous expliquer ce qu'il fallait faire, etc. Donc, et puis alors j'ai été le premier speaker du journal télévisé en langue française à la télé libanaise, une chaîne qui s'était créée, qui avait monté cela. Et c'était passionnant parce que c'était tous les soirs, j'étais là à rédiger le journal et à le présenter, et c'était la guerre d'Algérie, c'était 62, c'était le... et donc je pouvais suivre
ça. C'est toi
qui
as présenté
très
les accords d'Évian à la télévision en question.
Est-ce que c'était avant? Non, parce que j'ai fait ça de d'octobre 61 à juin 62. On ne me souvient plus, les accords d'Évian, c'était...
Juillet, je crois que c'était hein? Plus tard, il me semble.
Peut-être plus tard, je ne sais pas. Non, je ne crois pas que...
Donc tu aurais parfaitement pu faire toute ta carrière dans le Moyen-Orient, dans ce Moyen-Orient tel qu'il était.
Oui, oui, absolument. Mais je voulais faire du théâtre. Et le jour...
Et tu en faisais?
J'en faisais du théâtre universitaire, mais je voulais faire du théâtre. Et le jour où j'ai eu mon diplôme, le lendemain, je suis parti pour Paris. Grâce à une dame, d'ailleurs, dont je veux saluer la mémoire, qui était la femme d'ambassadeur du Canada, des peintres, un artiste, Simone Audrey Beaulieu, qui accueillait chez elle des artistes, des peintres, des écrivains, etc. Et j'étais un peu un habitué de son salon, et où j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires, et Lanza del Vasto, par exemple, Pierre Schaeffer, dont je te reparlerai, et Georges Mathieu, enfin, dans tous les domaines, dans tous les styles, tout ça. Et puis, donc, elle voulait aller en France, et en voiture avec ses deux enfants. Elle ne voulait pas partir seule, donc elle cherchait un compagnon parce que il y avait eu cette année-là un petit drame, parce que beaucoup de gens allaient en France en voiture en passant par la Turquie, bien sûr, hein, on passe Syrie, Turquie, etc. Et il y avait une chose dont tout le monde parlait, qui avait créé un petit drame, c'est que l'ambassadeur d'Angleterre était parti avec son épouse et puis ils étaient fait arrêter en Anatolie et ils avaient été violés. En fait. Le drame, c'était pas l'ambassadrice, la femme d'ambassadeur qui a été violée, c'est l'ambassadeur. Mmh. Et donc, ça avait créé un émoi. Et donc, il fallait absolument qu'il ait un compagnon, et c'est ce qui m'a permis de venir à Paris.
Tu aurais pu subir le même sort.
J'aurais pu, mais j'étais là pour éviter justement que... Et voilà comment je suis arrivé à Paris pour la première fois. Et,
alors, tu voulais faire du théâtre, donc qu'est-ce que tu as fait?
Alors, j'ai été à la Mecque du théâtre, pour moi. Ce qui était la Mecque du théâtre, c'est-à-dire Jean Vilar, parce que j'avais... Et je suis allé, j'ai frappé à la porte, j'ai dit, voilà, je voudrais faire un stage. Je suis ça. Et j'ai été accepté. Et j'ai pu faire mon stage avec Jean Vilar, auprès de Jean Vilar. C'est la dernière année où dirigeait le TNP. Je rencontre une comédienne libanaise avec qui j'avais fait des récitals de poésie, à qui on avait fait du théâtre, un jour dans la rue, et qui me dit, tiens, voilà une revue, ça va t'intéresser, une revue qui s'appelait Théâtre, et dans laquelle il y avait une annonce de l'université du Théâtre des Nations, un stage. Alors j'ai découvert ça, et j'ai découvert que au Théâtre Sarah Bernard, là où il y a le Théâtre de la Ville aujourd'hui, il y avait un festival du Théâtre des Nations, qui accueillait des spectacles du monde entier et qui organisait des cours universités où on pouvait aller rencontrer les créateurs qui étaient invités au théâtre des nations, voir les spectacles déjà, ce qui était déjà beaucoup. Ensuite, rencontrer non seulement tous les invités étrangers, mais également tous ceux qui faisaient le théâtre en France à l'époque, décorateurs, scénographes, etc., etc. Et donc, je suis allé, j'ai demandé si je pouvais suivre ce stage. Bon, et j'ai eu la chance d'être admis. Et donc, j'ai fait ce stage aussi. Enfin, j'ai suivi cette université du Théâtre des Nations.
Ça consistait en quoi?
C'était des cours toute la journée, des conférences pendant 3 mois. On avait du matin, après-midi et après-midi, on rencontrait des gens, on apprenait tout ce qui se faisait. Chacun racontait son métier. Le soir, on allait voir le spectacle, qu'on commentait le lendemain, etc. Donc c'était un brainstorming, si tu veux, de théâtre. Et alors c'était divisé en différents groupes. Il y avait les auteurs, il y avait les metteurs en scène, il y avait les comédiens, etc. Donc moi, je m'étais mis dans le groupe auteur parce que j'écrivais un peu. Et à la fin du cycle, les metteurs en scène choisissaient un texte d'un auteur, le metteur en scène avec des comédiens, etc. Et à la fin du cycle, donc, j'avais laissé mon texte et puis on m'a dit que voilà qu'il y avait une étudiante de l'année d'avant qui avait choisi mon texte et allait le mettre en scène et qui voulait me rencontrer. On s'est rencontrés et on ne s'est jamais quittés. Ça a été immédiat.
Il s'agit de Françoise Grun.
Voilà, tu as deviné.
Oh.
Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis 3 mois plus tard, je suis rentré en Syrie. Elle m'a rejoint et puis on a continué à faire du théâtre. Mais on était arrivé à cela parce que tu me posais la question
Tu as joué Caligula, tu as joué Estragon ou Vladimir, l'un des deux, je ne sais plus lequel. Qu'est-ce que tu as joué d'autre?
Ah, j'ai joué après. Après, je suis rentré en Syrie, j'ai joué aussi, j'ai continué à jouer. Mais avant, je vais juste Je ne peux pas ne pas mentionner dans cette période ce qui m'a permis de faire tout ça à Paris. Parce que le petit franco-syrien qui arrive, qui n'a rien, pas d'argent ni rien, comment est-ce qu'il va survivre à Paris? J'ai été à la radio, à l'ORTF, et j'ai été frappé à la porte d'un monsieur dont on m'avait donné le nom à Beyrouth, quand j'ai quitté la télé, en leur disant, voilà, je m'en vais. Il m'a dit, si vous voulez aller voir Bernard Lanneau. Et je lui ai dit, voilà, je viens, j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, vous avez besoin de combien? J'avais vu que m'étais renseigné, de la bourse que donnait à l'époque le gouvernement français aux étudiants étrangers était de 400 francs. Alors j'ai dit 400 francs, ce qui était déjà très peu. Et il m'a dit, écoutez, je vais vous les assurer, vous allez faire des émissions. Et c'est grâce à lui que j'ai pu rester, que j'ai pu faire tout cela en faisant des émissions à la radio.
Pour l'ORTF.
L'ORTF, bien sûr, oui.
Dans ce qui sera l'équivalent, qu'est-ce qui serait l'équivalent maintenant dans quelle chaîne ce serait?
C'était à la radio.
Oui, j'entends
c'était
bien.
C'était à la radio, c'était des émissions sur le théâtre.
Donc ça serait France
c'était
Culture.
C'était un monsieur qui s'appelait Moussa Abadi qui avait une émission et dans laquelle j'intervenais pour lire des textes, pour commenter des textes, etc. C'était à l'époque, il y avait des émissions comme ça sur le théâtre. On lisait, on découvrait des textes.
Et alors, comment vous vient l'idée de fonder le Festival des Arts Traditionnels?
Je viens de le dire. Je l'ai pas dit, mais on l'a deviné. Le Théâtre des Nations, pour moi, était un choc étonnant, extraordinaire, parce que le Théâtre des Nations, il faut le rappeler, le Théâtre des Nations, c'était...
Il y a eu une session en 69, il me semble, aussi. Enfin, moi, j'ai assisté à une session du Théâtre des Nations... C'était patronné par Jean-Louis Barrault, après voilà. Qu'il ait été chassé du théâtre de l'Odéon
oui.
Par André Malraux.
En 68, après 68. Mais en 68, en mai 68, il a fait des déclarations qui ont fait que Malraux... Mais le Théâtre des Nations, donc, c'était la ville de Paris qui le menait, était dirigé par Claude Plançon. Et A.M. Julien, Montmesme Julien, mais c'était Claude Plançon qui était vraiment l'âme de ce théâtre, qui trouvait les spectacles, qui les amenait. Et c'est là que la France a découvert Brecht. C'est là que la France a découvert l'Opéra de Pékin. C'est là qu'on a découvert le théâtre baliné. C'est
là,
après Artaud, après les expositions coloniales. Mais bon, et il y a eu plein de découvertes. Et pour moi, c'était une ouverture sur le monde incroyable. Et donc, j'ai toujours rêvé de pouvoir continuer à voir ces spectacles, de pouvoir continuer à les faire connaître. Et donc, ce Théâtre des Nations, cette université, fait que, bon, je vais abréger parce que ce serait trop long, de retourner en Syrie. Je suis resté correspondant de l'Institut international du théâtre à l'UNESCO, qui m'a ouvert la possibilité d'assister à des congrès, de suivre et de découvrir d'autres formes de spectacles à travers le monde qui n'étaient pas connues en France. Et quand j'en parlais, ça n'intéressait personne, en dehors du petit groupe.
Comment est-ce possible, ça ?
Pardon ?
Comment est-ce possible ?
Ben écoute, c'était possible à l'époque, c'était tout à fait possible, et parce que les gens qui dirigeaient les théâtres s'intéressaient à leur création, à ce qu'ils faisaient, et pas du tout à
Pourtant, avant que Jean-Louis Barrault soit viré de l'Odéon, je me souviens que dans la semaine du 11 mai, le 11 mai, il y avait eu la grande manif, et la même semaine, il y a eu du Bunraku au théâtre de l'Odéon. Donc Jean-Louis Barrault avait cette ouverture.
Oui, non, parce que c'était le Théâtre des Nations. Oui. C'était le Théâtre des Nations. C'est-à-dire après, quand le Théâtre des Nations a été repris de Théâtre de la Ville et que Plançon et Julien ont quitté, il a été repris un an plus tard par Jean-Louis Barrault à l'Odéon. Et il l'a repris plusieurs années plus tard pour une ou deux saisons lorsqu'il était à Orsay. Mais ça a été des périodes très courtes. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a continué cette politique. Barrault a toujours d'ailleurs été ouvert vers ces formes. Lui, c'était formidable parce que c'était... Il a continué, d'ailleurs même au rond-point, tout ça, il avait commencé par faire ce travail. Et donc voilà, c'est pourquoi, dès que j'ai eu les moyens, et c'était en 74, d'avoir un équipement, d'avoir un budget et de faire quelque chose, j'ai immédiatement créé le Festival des Arts Traditionnels.
À Rennes.
Mais
Rennes n'est pas sortie de... Pour l'instant, on est à Paris. On est entre Paris et la Syrie. Comment arrive-t-on à Rennes ?
C'est beaucoup plus tard. C'est...
Donc la première fois que tu as eu un équipement et de l'argent, tu as fait quoi ?
Créer le Festival des Arts Traditionnels, créer le Festival de Café-Théâtre, créer le Festival de Théâtre Musical, faire tout ce que j'avais envie de faire et de faire connaître. Parce que, si tu veux, bon, c'est long, hein, mais en même temps, quand après Paris, je suis retourné en Syrie où j'ai dirigé le Théâtre National pendant un an pour faire des créations, des troupes à la télévision. J'ai fait des émissions de télévision. Ensuite, je suis allé en Algérie. Ensuite, je suis allé en Tunisie, diriger le Centre culturel d'Hammamet. Et j'ai fait, entre autres, pendant cette période-là où je faisais du théâtre, des mises en scène, j'allais faire une mise en scène au Berliner Ensemble, qui était pour moi un peu le summum, et de montrer. J'ai monté Brecht en arabe au Berliner Ensemble. C'est la première fois qu'on pouvait monter Brecht en dehors de la tradition.
Monter Brecht en arabe au Berliner Ensemble.
Au Berliner Ensemble.
À Berlin-Est.
Hélène Weigel en a fait un film, d'ailleurs, qu'elle a diffusé partout dans le monde, pour montrer comment on pouvait sortir du modèle brechtien et rester brechtien. Avec tout ce bagage.
Où est ce film pour l'instant ?
Pardon ?
Où est-il ce film ?
Il existe, il existe en trois versions, arabe, anglaise et allemande. Et avec tout ce bagage, quand je suis arrivé à Paris, quand je suis décidé de m'installer à Paris, toutes les portes étaient fermées dans le théâtre. Il n'y avait rien. Heureusement, il y avait Pierre Schaeffer qui m'a pris au service de la recherche où j'ai pu.
Est-ce que tu peux rappeler qui était Pierre Schaeffer ?
Et bien sûr.
Il faut le dire.
Ah ben, j'espère que tout le monde connaît Pierre Schaeffer.
Non, je ne suis pas sûr.
Ben, écoute, Pierre Schaeffer, c'est un...
Il faut surtout le dire parce que c'est ce que nous disons en ce moment sera podcastable dans un mois. Et il est donc important de préciser tout.
Pierre Schaeffer, c'est un immense bonhomme. C'est moi, quelqu'un d'extraordinaire. C'est lui qui est le père de la musique concrète, avec Henri. Hein,
avec
Pierre-Henri. La symphonie pour un homme seul, c'est eux qui l'ont faite. Et c'est lui qui a dirigé le service de la recherche. Il a succédé à Jean Tardieu, qui était d'ailleurs avec lequel j'ai également travaillé. Et il a créé... pour le public, si tu veux, ce qui est le plus connu, c'est les Shadok encore. Mais c'est un des aspects, un petit aspect de Pierre Schaeffer. Mais Pierre Schaeffer, ses bouquins extraordinaires sur la musique, sur ce, c'est un monument, je dirais. Et j'ai eu la chance donc d'avoir connu Pierre Schaeffer au Liban. et d'avoir accueilli Pierre Schaeffer en Syrie. Il était venu en visite alors qu'on y travaillait avec Françoise pendant une période en été. On lui avait fait visiter un peu la Syrie. Et quand je suis arrivé en France, il m'a immédiatement demandé de faire le commentaire d'un film qui s'appelait « 2000 ans de civilisation, la Syrie ». Un film que produisait le service de la recherche de l'ORTF.
En fait, c'est 5000, si j'ai bien compris.
Pardon ?
En fait, c'est 5000 ans de civilisation, si j'ai bien suivi.
Oui, mais le film s'appelait 2000 ans. Mais voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai été ensuite pris au service de la recherche. Et pendant un an, j'ai travaillé sur...
Il faut quand même qu'on arrive à Rennes, parce qu'on a plein d'autres choses à voir. Je regarde ma feuille, là, avec angoisse. Et...
Ben, nous étions donc à Rennes.
Prenons
donc...
le train pour Rennes.
Pardon ?
Prenons le train pour Rennes.
Voilà, donc... Rennes, j'arrive dans des conditions difficiles parce que mon nomination avait été pas évidente. Je venais du monde de l'audiovisuel puisque j'ai quand même travaillé 6 ans à l'ORTF pour m'occuper des dramatiques, du bureau de sélection des dramatiques et des feuilletons à l'époque avec André Franck et Georges-Emmanuel Clancier qui est également un très très grand monsieur. Et donc j'arrive, je ne fais pas partie du monde du théâtre, je ne fais pas partie du monde du spectacle en France, et donc il fallait passer tout cela. Et j'ai totalement ignoré cette question. J'ai décidé de faire ce que je sentais était nécessaire à faire. D'une part, faire connaître les cultures du monde, et d'autre part, donner leur chance à des jeunes comédiens, des jeunes auteurs, etc., qui, à l'époque, étaient également mis de côté parce qu'ils faisaient du café-théâtre, qui n'était pas considéré comme sérieux, c'était pas professionnel, etc. Donc j'ai créé un festival de café-théâtre pour leur donner cette chance, et un festival de cinéma militant. J'ai demandé à Michel Pollack que j'avais connu parce qu'il avait mis en onde une des pièces que j'avais écrites à l'ORTF, de venir également faire des stages de formation pour le cinéma militant et à René Vautier, bien sûr, de suivre ça. Donc, j'ai lancé ce genre d'actions différentes. Bon, celle qui a le plus de souvenirs, c'est le festival des arts traditionnels, parce que c'était quand même quelque chose de tout à fait nouveau et qui a très vite bien accroché.
Oui, mais ça, comment as-tu réussi à faire passer cette idée-là auprès des autorités compétentes?
Ben, c'était pas difficile parce qu'il y avait un budget à la Maison des Cultures du Monde. La Maison de la Culture de Rennes, oui. Il y avait un budget, et dans ce budget, il y avait une ligne qui était spectacle folklorique. Tout ce que je déteste. Donc, j'avais demandé au conseil d'administration, j'ai dit, bon, cette ligne-là, je vais en faire un festival des arts traditionnels. Comme on ne savait pas très bien ce que c'était, on m'avait dit, bon, allez-y, faites ce que vous voulez. Et puis j'ai tenté le coup, et je dois dire que, dès la première année, c'était 4 mois après ma nomination, je fais ce festival et je décide d'inviter des artistes bretons. C'était en 74. Hein. Et à l'époque, tout ce qui était régional, breton, etc., n'était pas admis dans une institution de l'État.
Est-ce que c'était très mal vu? Des épisodes d'indépendantistes et pro-nazis pendant la guerre? Est-ce que c'était ça qui bloquait?
Non, c'était parce que c'était une langue régionale. C'était pas particulièrement parce que c'était breton, c'est les langues régionales. Parce que ces institutions, les maisons de la culture...
La France n'a d'ailleurs toujours pas signé la charte des langues régionales.
Absolument.
Elle l'a votée, mais elle ne l'a toujours pas signée. Oui.
Mais les maisons de la culture étaient là pour représenter la culture professionnel, noble, si tu veux, quelque part. Donc, toutes ces langues, ces trucs, les conteurs bretons, les musiques bretonnes, tout ça, c'était pas noble. Et grâce au Festival des Arts Traditionnels, j'ai pu les faire entrer en disant, bon, je présente des conteurs de l'Inde, mais donc, je veux qu'ils rencontrent un conteur breton. Et c'est par ce biais qu'on a pu faire toute une action. Bon, bien sûr, et Père Jacques Elias, à l'époque, qui a beaucoup aidé pour aller dans ça, pour faire pénétrer la langue bretonne et la culture bretonne dans une maison de la culture.
Puis,
ce festival se développant, j'avais toujours l'impossibilité, la très grande difficulté de pouvoir présenter ces spectacles qu'on faisait venir du bout du monde à Paris. Parce que les artistes qui venaient me disaient, on ne veut pas passer à Paris.
Moi, je suis un conteur breton en 74 à Paris. Ça,
il n'y avait pas que les chanteurs bretons. Je parle de tous les spectacles qui venaient de l'étranger. Et donc, y avait pas. On a essayé une fois, on avait avec c'était. On a dû présenter deux ou trois fois des spectacles. Peter Brook nous avait aidé une fois pour présenter un ou deux spectacles. Et je trouvais que c'était vraiment dommage que tout cet effort ne puisse pas circuler au nord de la France, mais pas à Paris. Il n'y avait pas cette retombée. Alors donc, j'ai écrit au ministère de la Culture en disant, voilà, il faudrait trouver un lieu à Paris qui puisse accueillir tout cela. Et bon, ça avait été un accueil sympathique en disant oui, mais il faut trouver un lieu, il faut de l'argent, on n'a ni l'un ni l'autre. Et quand est arrivé mai 81, j'ai été voir le conseiller de langue, qui était Robert Abirached, et je lui ai présenté le même projet. Je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on peut faire ça? Et il m'a dit, je vais en parler à langue. Et qui a dit, oui, on a l'argent, trouvez le lieu. Et donc, trouver un lieu à Paris, c'était pas évident. Or, il se trouve que quelques jours plus tard, arrive dans le bureau d'Abirached, l'Alliance française, qui était Roger Gouze et Philippe Greffet, qui arrive en lui disant, écoutez, on a un théâtre qui vient d'être rénové, on voudrait y faire une action internationale, et avez-vous un projet? Alors, il me téléphone, et aussitôt, on se rencontre. Et c'est comme ça qu'est née la Maison des Cultures du Monde.
Ça, cette partie-là, c'est un peu conte de fées, quand même. Hein.
C'était un peu un conte de fées. Et d'ailleurs, tu dois t'en souvenir, puisqu'on a annoncé l'ouverture de cette maison au Festival d'Avignon, à une conférence de presse où tu étais présente.
Comme journaliste, à l'époque.
Comme journaliste, absolument.
Alors, je voudrais quand même qu'on passe à des choses un peu plus... Comment dire technico-bizarre, on va appeler ça comme ça. De toutes les prospections que tu as faites, parce que tu fais venir des spectacles, mais tu allais les chercher, toi et plein d'autres. Enfin, pas tellement plein d'autres, parce que ce sont des petites équipes et que c'est un métier difficile.
Françoise a fait beaucoup.
Voilà, vous êtes
Françoise
beaucoup partagé.
Complètement, oui.
Et c'est un métier horriblement difficile. Moi, je l'ai fait une fois avec toi, une fois seule, et c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Et quels sont les souvenirs les plus... Alors là, j'ai toute une liste d'adjectifs. Le souvenir le plus rude dans ton univers de prospection.
Dans ton
album de souvenirs de prospection.
Écoutez, il y en a beaucoup, parce que quand on va faire une prospection et qu'on ne trouve rien, c'est un souvenir rude. C'est très dur. Oh ben écoute, il y a des fois on part sur de fausses pistes, on pense trouver là quelque chose qui, et puis on se rend compte que ça a peut-être beaucoup d'intérêt dans son contexte, ça a peut-être beaucoup d'intérêt pour un public qui connaît la langue, qui etc. Mais qu'une fois sorti de son contexte, même si les actants, je dirais, sont prêts à sortir et veulent sortir, ça ne pourrait pas du tout communiquer avec un public qui n'est pas...
Donc le plus difficile, c'est quand on s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire.
C'est très souvent ça. C'est le problème de la transplantation d'un spectacle. Moi, je crois que ce qu'on a toujours tenu à faire avec Françoise, moi maintenant, Arroy Desbert, qui dirige cette maison et qui a pris la suite des prospections, c'est de ne pas... faire du mal, ne pas atteindre d'une manière ou d'une autre la forme qu'on présente, ne pas la dénaturer. Et de pouvoir la sortir de son milieu et la présenter au public sans la trafiquer et sans lui porter atteinte. Parce que même, je vais te citer un exemple, même quand tu prends les plus grandes précautions, il y a des choses qui peuvent arriver. Et il y a des choses qui peuvent arriver aussi, parce qu'elles vont dans le sens de l'évolution de ces formes. Parce qu'il faut bien garder en principe que ces formes sont des formes vivantes, sont des formes qui évoluent. Et donc aujourd'hui, on n'a pas la même qu'il y a 10 ans, et qu'on n'aura pas la même dans 10 ans, elle aura changé. Je cite un exemple très rapide que sur ces marionnettes de Yakshagana, dont je parle très souvent, qui est une forme donc, qu'on avait ramenée de l'Inde et qu'on avait présentée. Bon, pour lequel j'ai un amour particulier. Le montreur est un monsieur merveilleux, un vieux monsieur qui venait. Et puis un jour, il arrive. Alors, il y a bien sûr les montreurs. Et puis il y a l'ensemble musical où ils sont 4 personnes, dont un qui fait le son continu. Et un jour, il arrive
sur le petit harmonium, c'est ça que
voilà.
Ça veut dire la main qui fait ça.
Et il arrive et il me dit, dans mon bureau, il me dit qu'on est toujours en difficulté. On disait, bon, combien de personnes? Est-ce que ce serait 8, 9? Il fallait payer les voyages et séjours, tout ça. Alors il me dit, j'ai une bonne nouvelle. Il dit, bon, la prochaine fois que tu nous invites, on ne sera plus 9, on sera 8. Je dis, ah bon, et pourquoi? C'était le minimum, il ne pouvait pas. Ah non, non, je viens de voir, il avait trouvé, boulevard rue de Rennes, il avait trouvé dans un magasin une petite boîte électronique. Et il m'a dit, voilà, je mets un scotch là-dessus et j'ai la note continue, je ne fais plus venir le musicien. Je lui ai dit, non, moi je préfère le 9e voyage et que le musicien continue. Il m'a dit, mais non, regarde, voilà, c'est exactement pareil, et tout ça. Il m'a montré, là, avec la batterie, tout ça, il faisait sa note continue. Et je me suis dit, on a porté atteinte à quelque chose. Et puis après, je me suis dit, bon, il ne l'aurait pas vu là, six mois plus tard.
Oui, je ne suis pas sûr que oui, ça n'aurait rien changé.
Il l'aurait trouvé à Bombay, il l'aurait trouvé ailleurs. Et progressivement, bon, le néon a remplacé les lampes à huile, les instruments maintenant.
Les chants des Métines sont préenregistrés. Et la fameuse Gayatri, qui est la prière du matin en Inde, on l'achète en petite boîte, exactement voilà. Ce genre de petite boîte-là.
Donc tout ça fait partie de l'évolution de ces formes vivantes.
Bon, ça c'est le souvenir le plus rude?
Pardon?
Ça, c'est le souvenir le plus rude.
Non, 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 je te citais parmi les souvenirs.
Le souvenir le plus bizarre?
Le plus bizarre, alors, oui, le plus bizarre, mais c'est lié à cette prospection, ça fait partie, mais c'est quand j'étais au Nagaland.
J'espérais bien que tu allais en parler, sinon je t'aurais mis dessus. Parce que je me souviens de ton récit quand tu es revenu de Nagaland, et je voudrais que tu nous le refasses, s'il te plaît. Le même récit.
Du Nagaland.
Oui, oui. Quand tu es revenu du Nagaland, tu m'as raconté cette expérience. Et je voudrais que tu me la racontes à tous.
Bah, écoute, je ne me souviens plus exactement de ce que je t'ai raconté.
T'inquiète pas, j'ai une bonne mémoire.
Bon, écoute, donc, tu sais, à l'époque, quand j'ai été, c'était interdit. Et c'est vraiment, c'est grâce à toi, à l'appui que tu as fait auprès des Indiens, etc.
C'est-à-dire tous les États du nord-est de l'Inde sont interdits aux visiteurs, ou interdits aux touristes, plus exactement.
Étaient à l'époque.
Mais ils le sont toujours.
Ils le sont toujours.
Mais bien entendu que oui.
Mais c'est moins sévère que ça ne l'était.
Mais c'est encore plus sévère. C'est encore plus sévère parce qu'il y a pas mal d'émeutes et de troubles à peu près dans tous les États du Nord-Est. Oui. Il y en a beaucoup en Assam, évidemment. Oui. Mais en Assam, c'est surtout de la drogue. Mais même quand on a été au Manipur, il avait fallu un permis spécial.
Oui. À l'époque, oui.
Donc ça n'a pas changé, voilà. Ça.
Et donc le Nagaland était particulièrement fermé parce que coupeur de tête, c'était il y a 35 ans, oui. Presque 40 ans. Seuls quelques missionnaires y avaient accès. Et puis donc, j'ai le privilège de pouvoir y aller accompagné par Vijay Singh, qui était un officiel indien. On arrive, bien évidemment, par la route, une route difficile en montagne, bon, panne la nuit, l'armée qui vient nous protéger. Puis on arrive dans un village, et là, à ma grande surprise, c'est une jeune femme, superbe, qui était le chef du village, dans ces montagnes, tout ça. Et qui m'accueille, donc c'était la nuit, nous donne chacun sa couche dans un coin d'une tente. Et puis elle me dit, demain à déjeuner, on va vous préparer un déjeuner, très bien, merci, tout ça. Puis elle revient quelques minutes après, elle me dit, est-ce que vous aimez les chiens? Je dis, oui, j'ai un chien. Moi-même. Et les chiens noirs? Je dis, oui, tout à fait, j'aime beaucoup les chiens. Demain, on va vous faire un chien noir à déjeuner. Bon, alors je me suis récrié, j'ai dit non, surtout pas. Et elle m'a appris que c'était, on honorait l'hôte le plus important en lui faisant du chien noir. Et que c'était presque incontournable. Je crois que je n'en ai pas mangé. J'espère ne pas en avoir mangé, mais ils m'ont dit que bon, ce qu'ils ne feraient pas, mais comment savoir?
C'est comme l'œil du mouton dans le méchoui. C'est le même. C'était quand même un très beau cadeau. Mais il y avait autre chose. Il y avait une haie de guerriers qui t'attendait.
Ah oui, alors le lendemain, justement, pour ce déjeuner où j'espère ne pas avoir mangé du chien noir, j'arrive et puis d'un seul coup, on voit une haie de guerriers en habit de guerre, avec leurs lances, avec leur tout ça qui tapait les pieds et tout ça. Enfin, c'était très très impressionnant pour arriver dans un endroit où on m'a mis sur une tribune et où je devais voir les danses des différentes tribus qu'ils avaient rassemblées.
Qui ont vraiment l'air d'Amérindiens du Nord.
Complètement, ça n'a rien à voir avec l'Inde qu'on imagine.
On dirait vraiment des Sioux
ou
des Oglala. Ouais.
Et là, commence et arrive à la tribune une dame qui fait un discours dans la langue du local.
Naga.
Je crois que c'était Naga. Non, mais ils ont plusieurs dialectes. Je ne sais plus lequel. Enfin, c'était bon. Une langue Naga. Et je demande, mais de quoi parle-t-elle? Ah, elle parlait d'une association pour la défense des droits de la femme, etc. Elle profitait de l'événement qu'il y avait un étranger pour dire que, voilà, il y avait cette association des droits de la femme. Ce qui était assez surprenant, mais en même temps très bien. Je veux dire, c'était. Et puis les discours sont succédés, et puis après on a vu ces danses magnifiques, etc. Mais malheureusement difficilement transportables. C'est pourquoi on a pensé que.
Ils sont quand même venus.
Voilà, qu'on les a fait dans un cadre, pas de spectacle, pas sur une scène ni rien, mais dans le foyer de l'Opéra de Paris. Et c'est là que c'est sans doute ce souvenir que tu voudrais qu'on raconte aussi, c'est qu'on a été à l'Opéra de Paris pour faire la répétition avec les Nagas. Et on est rentré, alors il y a un dédale, il fallait monter, descendre, aller voir les loges, puis passer, retourner, etc. et tout. Bon, puis on est ressorti, et le soir on revient avec les Nagas. Et là on était, nous, je veux dire, l'équipe qui a encadré, complètement perdu. Mais c'était à droite, à gauche, par où aller, etc. Les Nagas ont dit, venez, ils sont pris et ils ont retrouvé le chemin direct. Ils avaient tout saisi et on les a suivis. Ils ont servi de guide.
Ça n'est pas ce souvenir-là que j'ai d'eux, puisque j'étais hospitalisée à l'époque, mais ils sont venus me voir et ils m'ont offert une couverture noble, justement, précieuse, dont j'ai le plus grand souvenir. C'était cette expérience des Nagas, c'est quand même une expérience tout à fait extrême, parce qu'en effet, c'était un état interdit. Et parce que leur culture n'est jamais plus revenue. Hein, ils sont. Oui. C'était tout à fait extraordinaire.
Mais je crois que Arouad y a été il n'y a pas longtemps.
Oui.
Et qu'elle va nous les ramener bientôt.
Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme type de souvenir le plus séduisant?
Alors là, c'est la question, si tu veux, à laquelle je ne réponds jamais quand on me dit quel pays vous aimez le plus.
Ah, c'est pas, j'ai pas dit ça. J'ai dit le souvenir le plus séduisant.
Tout est séduisant pour moi.
Alors, ce qui a été le plus facile?
Le plus
facile.
Facile? Ben, les plus faciles, c'est quand il y a des formes qui sont toutes des formes spectaculaires déjà en elles-mêmes, je veux dire. Bon. Donc là, il n'y a pas de problème de transplantation, il y a simplement le problème de la qualité de la présentation. Donc là je dirais, c'est des missions, c'est des explorations qui sont pas excitantes en elles-mêmes. Si, c'est toujours bien de voir des choses. Mais ce qui m'a toujours séduit, c'était de découvrir des personnages, de découvrir des types humains par exemple, je sais pas, en Colombie, quand j'ai écouté à Buenaventura sur le Pacifique des chants de pleureuses noires colombiennes, c'était un moment exceptionnel. C'était ces trois vieilles dames qui avaient un répertoire, qui avaient des voix, c'était très grande émotion. Et voilà, il y a des moments comme ça qui marquent, je dirais. Et fort heureusement, j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup.
Encore un peu de souvenirs, s'il te plaît. Justement, parce que tu nous as fait faux bond, parce que tu étais très fiévreux ce jour-là pour la Diablada qui venait de Bolivie.
Alors la Diablada, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. C'est un spectacle fabuleux. Et puis j'avais pas vu sur place, mais j'avais vu des images, et je me suis dit, c'est pas possible un truc comme ça. Il faut absolument qu'on le voit, qu'on le découvre. Et donc on avait réussi avec des collègues de 5 pays européens à monter la venue de 80 danseurs de Diablada avec leurs masques.
Leurs masques qui pèsent ?
Leurs masques et leurs costumes qui pèsent 80 kilos chacun, qu'ils portent sur eux, avec le masque, la cape, les chaussures énormes, etc. Et ils dansent dans les rues, ils descendent. Et on les avait fait venir Ils étaient passés à Rennes, pas à Paris, et dans différentes villes d'Europe, et il fallait les transporter. Ils étaient avec des caisses, toutes les caisses des masques, qui sont des caisses énormes, et à l'époque, c'était le train qu'il fallait prendre. Et je me souviens qu'ils partaient de Rennes à Milan, et que quand ils ont embarqué les caisses dans le train, ils ont complètement bloqué tous les passages de train, et qu'aucun des passagers n'a pu aller faire pipi pendant tout le trajet de Rennes à Milan.
Bloqué
par les caisses et les pas de contrôle qui comptaient les masques.
Tu parlais des difficultés à transplanter, et pourtant, je ne sais pas combien d'années ça a pris. Tu as réussi à transplanter d'un terreiro brésilien une cérémonie du candomblé à Aubervilliers, dans le théâtre de Bartabas.
Ben
ça paraît pourtant l'intransportable absolu.
Oui, et c'est
un terreiro, c'est
pour ça qu'on n'a pas fait bien longtemps avant, parce qu'on avait beaucoup de scrupules à transporter, à faire venir un terreiro. Et ce n'est que lorsqu'on a eu le contact qui a fait que l'ethnomusicologue, le chercheur qui s'occupait de ça, s'était assuré auprès des gens qu'ils étaient d'accord pour le faire, que ça les intéressait plus de le faire que de ne pas le faire, etc., qu'on l'a fait finalement. On a eu la même attitude. Par exemple, le vaudou, on ne l'a jamais fait, alors que Claude Plançon l'avait fait. Il avait fait avec Mathilda Beauvoir, tout ça, c'est des grands souvenirs. Mais nous, on n'a pas osé le refaire, en se disant, bon, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne passera pas, ou ce sera joué, ou ce sera trafiqué, bon. Et ça, on ne voulait pas. On a eu beaucoup de scrupules aussi à faire venir une cérémonie comme le Stambelli de Tunisie, qui est également une cérémonie de possession.
C'était une confrérie de...
Oui.
Mais il y a eu des trans dans la salle.
Voilà.
Oui, mais ça c'était tout à fait... Oui, mais ça c'était transportable.
Oui, c'était transportable, mais je veux dire, c'est ce genre de choses qu'on hésite à transporter, parce que il faut la limite entre ce qui reste de rituel et ce qui devient spectacle est très 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 très, très faible. Bon, il y a bien sûr la position de penser que tout est spectacle, que tous les rituels, que dans les rituels il y a toujours une partie spectacle. Que le chaman est un comédien qui fait son comme l'est le prêtre ou etc.
C'est ce que dit Charles Stepanov qui étudie qui a pris la succession de Robert Tamayon et qui s'occupe des charmants sibériens. Il dit faut pas croire qu'ils sont habités par l'âme d'un animal. Par exemple.
Et c'est ce que dit aussi Henri Lecomte qui travaille beaucoup sur les cultures sibériennes. C'est certainement vrai. Moi, je partage cette opinion. Mais il faut aussi jouer avec la sensibilité, tenir compte de la sensibilité du public pour lequel ce n'est pas toujours vrai. Et donc, il peut être quelque part blessé ou choqué de voir que ce qui pourrait être un rituel ou un acte religieux est donné en spectacle. Je veux dire, c'est très délicat et il faut vraiment le faire bien le préparer et le présenter.
Tu dois reconnaître que tu n'as pas essayé de transporter une messe catholique en Inde quand tu as fait le Mela français en Inde.
Non, nous n'avons pas fait cela. Mais nous avons fait venir l'ange de Kelva.
Oui, absolument. Je voudrais qu'on passe... On a peu de temps parce que je voudrais quand même donner la parole au public.
On a dépassé l'heure.
Non, on n'a pas du tout dépassé l'heure. Je voudrais que dans le quart d'heure qui nous reste, après je passe la parole au public, tu nous parles de Chérif Casadar a été très récemment dans la session qui, à Saint-Pétersbourg, a admis au patrimoine, c'était matériel cette session-là.
À Saint-Pétersbourg, c'est le patrimoine mondial, oui.
Le patrimoine mondial, donc il était l'un des décideurs du dernier choix du patrimoine mondial.
Non, on ne peut pas dire que j'étais l'un des décideurs. Non, je faisais partie de la délégation française, qui était délégations parmi autant qui discutaient les dossiers. Donc,
tu étais dans le collectif des décideurs, ça va comme ça?
Voilà, bon, je faisais partie de cette réunion. Il y en a d'autres où j'étais plus décideur que là où je n'étais pratiquement pas. Oui, mais C'était pour, à quel propos?
C'est pour savoir comment ça se passe. Je dis ça parce que j'ai été très surprise en travaillant sur la, en travaillant sur le cycle mythologique qui est le cycle de Gezer, qui n'est autre que César, qui est un cycle que, qui a été bien expliqué par Robert Tamayon en Bouriati. Donc il est dans toute la Sibérie, il est dans toute la Sibérie ex-soviétique, il est dans actuellement dans la République de Bouriati, il est en Mongolie, il est en Mongolie intérieure, et c'est la Chine qui l'a déclaré comme patrimoine immatériel. Au nez et à la barbe des autres régions.
Mais écoute,
donc comment ça se passe?
Oui, ce serait très très long, là on n'aurait pas assez des minutes qui nous restent, même beaucoup plus pour le détailler. En gros, il y a donc, que ce soit pour le patrimoine mondial ou pour le patrimoine immatériel, il y a des pays, parce qu'il ne faut pas oublier que l'UNESCO, c'est une organisation intergouvernementale, ce qu'on oublie souvent, ce sont les États qui font partie. Alors, donc des pays qui proposent l'inscription sur l'une des listes de tel ou tel élément. Donc il y a un dossier qui est constitué par le pays qui dépose le dossier. Ce dossier va être étudié par, alors suivant les cas, il y a c'est des organes consultatifs ou des organes ou des ONG d'experts ou etc. qui vont étudier ce dossier et qui vont soumettre un rapport à un comité qui est formé de pays membres de la convention en question, qu'elle soit celle de immatériel ou matériel, et ce comité, en fonction du rapport qu'il aura reçu, va décider s'il accepte, il inscrit tel ou tel élément sur la liste. Alors, bien sûr, le comité peut aller dans le sens du rapport, qui est généralement un rapport qui est fait sur des bases plutôt scientifiques, je dirais, par rapport à l'état d'un monument, de sa conservation, etc., ce qui justifie qu'il soit, qu'il fasse partie du patrimoine de l'humanité.
La série des lacs au Tchad, vous avez sanctuarisé des lacs au Tchad,
c'est le patrimoine naturel, le patrimoine mondial, et maintenant il y a le patrimoine immatériel, qui est pareil, mais c'est un autre comité. Voilà, donc tout cela fonctionne, mais comme c'est une organisation intergouvernementale, il est évident qu'à un moment donné, et généralement c'est dans la dernière étape, au moment où les choses se décident, il y a des aspects politiques qui interviennent.
Bah, c'est ça.
Les États. Et là, des aspects politiques interviennent.
Par exemple, les lacs au Tchad, pourquoi Saint-Pétersbourg il y a 6 mois?
Oui, alors là, si tu veux, chaque cas est un cas particulier. Dans le patrimoine immatériel, par exemple, la Chine aussi a demandé l'inscription de pratiques musicales mongoles. Parce qu'elles sont sur leur territoire aussi.
Aussi.
Et la Mongolie veut inscrire ces mêmes éléments. Alors, bon, il va y avoir une réunion bientôt pour voir comment est-ce qu'on fait avec des cas de ce genre. Est-ce que c'est le même élément qui est inscrit sur les deux pays, ou est-ce que chacun des pays qui doit le déposer séparément? Il y a tous ces problèmes qui se posent, qui dépassent, je dirais, le côté anthropologique ou autre, mais malheureusement qui sont des problèmes essentiellement politiques. Et des fois, il y a des pays...
Et à Saint-Pétersbourg, quel était le problème le plus politique?
C'est le problème qui touche Jérusalem, qui touche... c'est là qu'était l'élément,
vous avez classé en urgence l'église de Bethléem.
Voilà, oui.
Mais ça a été vite fait, j'imagine. Cette décision a été vite prise.
Elle a été vite prise parce qu'elle a été précédée de beaucoup de négociations. Et donc là, ça s'est passé assez rapidement. Mais il y a toujours...
Alors, il faut faire un petit rappel historique. Il y a d'abord eu l'admission de la Palestine à l'UNESCO, l'UNESCO étant la seule enceinte internationale où la Palestine existe comme État. Quand je pense que j'ai vu, moi, Yasser Arafat faire une visite d'État à New Delhi, avec des drapeaux palestiniens dans toute la ville, ça a existé aussi pendant ce moment-là. Un État palestinien a existé pendant quelques jours dans les rues de New Delhi. Et puis qu'à la suite de cette adhésion de la Palestine à la scission de Saint-Pétersbourg, vous avez classé l'église de Bethléem.
Oui, parce que ne peuvent être classées comme dans des conventions de l'UNESCO que les propositions qui sont faites par des pays qui ont adhéré à la convention. Et donc, à partir du moment où la Palestine est devenue membre de l'UNESCO, elle a pu adhérer à la Convention, et donc elle a le droit maintenant de déposer des dossiers d'inscription, comme elle a le droit de le faire pour le patrimoine immatériel, aussi convention à laquelle elle a également adhéré, qui rétablit l'ordre des choses.
Mais les négociations sont toutes terminées avant que vous arriviez, ou bien il y a des vrais affrontements politiques en séance ?
Non. D'ailleurs, les séances sont retransmises en direct, ce qui est très bien. On peut les suivre sur le site de l'UNESCO, etc., en télé. Et il y a des affrontements en permanence, en séance. Et il y a des blocs qui se créent. Il y a des fois pour des détails, je veux dire. Bon, des fois, c'est une... Et au départ, pour quelqu'un qui n'est pas tout à fait au courant de la situation, ça peut paraître absurde. Mais après, quand on découvre le pourquoi et le comment, c'est moins absurde. Et puis, ce sont de véritables affrontements.
Tu penses à quelque chose de précis, là ?
C'est à Saint-Pétersbourg, il y en a eu plusieurs. Hein, il y a plusieurs prises de position. Ben, de mémoire, là, je ne pourrais pas t'en donner un. Il y en a eu tellement. Non, là, ça ne me revient pas comme... Personnellement, je te dirais...
Par exemple, pourquoi il y avait une demande d'inscription de la Chine pour classer Xanadu. Et vous l'avez refusé.
Je ne me souviens pas. Ça a été refusé ?
Je crois que oui.
Oui, je ne me souviens pas.
Il y a tellement de
dossiers d'inscription, et puis ce sont des séances quand même très très longues, très dures, et puis... On alterne aussi. On essaye de ne pas être tout le temps là et d'alterner. Donc, je ne pourrais pas te rentrer dans le détail, si tu veux, de ces séances. Celle que je suis de beaucoup plus près, c'est celle qui concerne le patrimoine immatériel, qui est vraiment mon domaine. Et là, je les suis. Et d'ailleurs, nous allons réfléchir dans les jours qui viennent sur comment faire pour ces éléments qui se retrouvent dans différents pays.
Oui, eh bien, par exemple, il y a un cas bien singulier sur lequel vous avez... Parce que je ne sais pas si ça a été classé ou pas. C'est le lieu où Lao Tzu, qui n'a peut-être pas existé, a rencontré Confucius, qui lui a existé. Demande de classement de la Chine.
C'est la Chine qui demande de le classer ?
Ah oui. Oui. C'est de l'immatériel ou c'est du matériel, ça ?
Ben, là, en l'occurrence, c'est du matériel.
C'est un endroit.
Oui, c'est du matériel.
Sur un événement dont on n'est absolument pas sûr qu'il existait.
Oui.
C'est au croisement des deux.
Non, parce que l'immatériel tel que défini par l'UNESCO est totalement différent. Ce sont des pratiques, ce sont des savoir-faire, des pratiques, des spectacles, etc. Ça ne peut pas être justement ce qui est immatériel en fait.
Mais c'était une conversation.
Oui.
Qui a été retranscrite. Imaginaire.
Est-ce qu'elle a été transmise génération en génération, puisqu'on se la raconte.
Oui. Évidemment, Confucius l'a raconté en long, large et en travers, ouais. Et on ne sait toujours pas si c'est vrai. Ouais. Bon, je vais vous passer la parole, nous avons encore 25 minutes devant nous, donc prenez le temps de vous emparer des micros. Vous avez de chaque côté dans les travées des jeunes gens qui descendent avec des micros.
Monsieur Cazenatar, merci beaucoup pour votre présentation. Je suis là.
D'accord. Voilà.
Présentation si agréable, si gentiment présentée, on peut dire. Voilà ma question. L'autre matin, à France Culture, le directeur du musée du Louvre expliquait que ces financements venaient moitié de l'État et 50% aussi du privé. En l'occurrence, ces résultats et aussi le mécénat, bien entendu. Alors moi, je suis intéressée à avoir une réponse sur votre financement à vous pour le Festival de l'Imaginaire.
Comme la Maison des Cultures du Monde, financée par l'État plus les recettes propres. Autrement dit, ça doit faire 70% l'État et 30% de recettes propres. Mais nous n'avons malheureusement pas de mécénat. Donc je fais un appel, s'il y a parmi vous des mécènes qui sont prêts à... N'hésitez surtout pas.
Oui, monsieur.
Oui, bonsoir. Je m'appelle Jean-Paul Roux. Je ne sais pas si Shérif Castaner se souvient de moi, mais j'étais réalisateur à la télévision du temps du service public et j'ai rencontré donc Shérif au moment où il était conseiller auprès des dramatiques. Et j'ai une dette inextinguible envers lui parce que dans les dossiers qui s'accumulaient, qu'on attendait un peu, des projets que j'avais déposés, j'ai pu faire une adaptation d'un roman de Louis Guillou qui a été certainement une des choses les plus intéressantes que j'ai fait, et une émission sur Paul-Éluard en deux parties. Et donc, je n'ai pas revu Shérif depuis 40 ans, hein, parce que ça remonte à ça, mais je n'ai absolument pas oublié, et je voulais lui dire merci. Voilà.
Ben merci pour ce souvenir qui me touche beaucoup. C'était une période, on n'en a pas parlé, mais qui m'a également beaucoup marqué, ces 6 ans de dramatique. Et un des souvenirs que je ne pourrais pas oublier, c'est le jour où est venu dans ce bureau, donc que vous avez connu, lorsque je m'occupais de cela, un monsieur assez âgé qui s'est assis sur la chaise en face de moi et qui a sorti d'un petit sac en plastique un paquet de photocopies de journaux, une sorte de livre de presse, en disant « Écoutez, voilà, moi je suis réalisateur et j'aimerais bien réaliser quelque chose. Je vous ai apporté ma revue de presse. J'ai pris le dossier, c'était à Bellegance.
Oh.
Là, j'étais scié.
Que tu n'avais pas reconnu?
Non, c'est un vieux monsieur qui est arrivé, qui s'est mis très modeste, tu vois. Et je me suis dit, comment, moi, excuse-moi, je veux dire, le petit con qui suis là, j'ai en face de moi ce monstre du cinéma à Bellegance. J'étais complètement...
Et qu'as-tu fait?
Ben, je me suis levé, je me suis confondu en truc, mais il voulait pas ça, il voulait qu'on lui donne quelque chose à faire. Il n'avait rien, il était en plus grande misère. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Jacques Lang. Une des premières choses qu'il a faites quand il est devenu ministre, il lui a donné une pension, ce qu'il n'avait pas.
Oui, oui.
C'est dramatique de penser.
Marcel Carné a connu le même type de problème. Oui, c'est dramatique. Oui.
Voilà. Bon, excusez-moi, vous m'avez rappelé ce souvenir qui me touche beaucoup.
Eh bien, c'est très bien.
D'autres questions? Oui? Ah, bonjour monsieur.
Bonsoir.
Content de vous revoir.
Bonsoir, professeur. Monsieur, je ne passe là que toujours revenir sur ce que la folie islamique, un peu, avec ce que vous avez montré sur Nasser, pour faire la comparaison. Peut-être à titre personnel, comme vous êtes de cette culture et autres, puisque vous avez triple ou quadruple culture, comment vous expliquez cette reculade incroyable, vraiment, avec ce qui se passe au nord du Mali ou éventuellement dans les pays qui ont connu ce qu'on appelle le printemps, je mets beaucoup de guillemets, arabe, ce qui risque de tomber dans le syndrome de la grenouille de Jean de La Fontaine. Merci.
Ben je ne m'explique pas. Je ne m'explique pas. Si ce n'est qu'on ne peut que le regretter énormément. Et malheureusement, je ne sais pas quoi faire pour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ici pour arrêter cette déferlante. Bon, ce qui se passe au Mali, c'est pas seulement au Mali, malheureusement, c'est tout le Sahel qui est en danger.
C'est concentré sur le Mali en ce moment.
Oui, mais je veux dire, mais les armes sont partout, oui. Ces intégristes sont partout là, ils se répandent ailleurs et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Mais je dirais, c'est les médias qui ont aussi un rôle à jouer là, parce que les médias ne rendent pas toujours compte des choses telles qu'elles sont, telles
qu'est-ce
qu'elles
que
le sont.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Je veux dire que pour se renseigner, il faut pouvoir aller sur différents médias, de différentes langues, pour avoir des angles d'approche différents. Parce que en France, on n'a qu'un point de vue, et extrêmement limité d'ailleurs, sur toutes ces nouvelles extrêmement graves qui viennent de l'étranger, que ce soit du Mali ou du Moyen-Orient ou d'Asie centrale, c'est 3 minutes à la fin du journal, ou c'est vraiment la partie congrue après les faits divers.
Non, on peut pas dire ça sur la Syrie quand même.
Je veux dire, si, à moins, sauf sur des canaux comme France 24, etc. Il y a des c'est très congru. Et c'est extrêmement, je dirais, partial. Pas nécessairement, je ne dirais pas que c'est une volonté d'être partial, mais c'est aussi le fait que c'est mal informé. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de quelque chose en allant, en voyant les choses en 24 heures ou 48 heures, etc. C'est des cultures, des civilisations, des pays qu'il faut connaître. Et on entend des choses intéressantes sur ces pays, rarement quand des études universitaires ou autres qui ont travaillé sur la région, qui peuvent donner une analyse, qui peuvent expliquer ce qui s'est passé. Et pas simplement des entretiens de 3 secondes dans la rue avec un gamin ou avec une dame ou avec un monsieur ou avec etc. dont on fait une généralité d'éléments très partiels. Ce qui fait que par exemple, ce qui se passe au Mali, qui est absolument dramatique.
Et que les médias, pour le coup, ne répercutent pas du tout.
Mais non, on n'en sait rien. Ces bibliothèques qui sont des mausolées, qui sont démolies, les bibliothèques qui sont brûlées, tout ça, on n'en parle pas. Les manuscrits de Tombouctou.
Il semble que les manuscrits aient été scannés.
Ils ont été scannés, oui, mais eux-mêmes, les manuscrits. Est-ce que les informations qu'on a, qu'ils ont été brûlés, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a 3 de brûlés, 100, 1000, une bibliothèque? Ça, on ne le sait pas, à moins d'aller chercher. Alors là, il faudrait aller écouter d'autres radios, d'autres... Et je trouve donc que là, dans ce domaine...
On ne sait pas, par exemple, que l'un des groupes intégristes est allé piller les territoires sacrés des Dogons.
Non.
Parce que j'ai appris, moi, parce que j'ai eu un coup de téléphone de là-bas. Oui.
Et on minimise finalement ce danger extrêmement grave que représentent ces groupes terroristes.
Mais tu n'as pas répondu à la question, que faire?
Que faire déjà, c'est une réponse presque partielle, déjà mieux informé, mais que faire, c'est... Je n'ai pas la solution. Je ne sais pas qui l'a, si quelqu'un l'a, mais je ne la vois pas. Oui, il y a quelqu'un qui a la solution.
Je voudrais commencer par donner mon point de vue là-dessus en tant que simple citoyen arabe, laïque et anti-religieux, anti-religieuse à fond. Je trouve que, personnellement, je ne trouve pas que c'est un retour en arrière. Je trouve que ce qui se passe dans les pays arabes est absolument merveilleux. Je trouve ça super qu'on se débarrasse des dictatures et qu'on se lève contre la dictature pour la première fois depuis une éternité. Je suis pas sûre que les musulmans soient plus dangereux que le régime de Bachar el-Assad, qui n'a rien de laïque, où il n'y a aucun droit civil, où le mariage civil n'existe pas, où les droits de femmes n'existent pas, où il y a des gens qui sont kidnappés, emprisonnés, disparus tous les jours. Donc c'est pas sûr que ce soit pire ce qui soit en train d'arriver. Un changement doit arriver. Peut-être qu'il faut passer par une période chaotique, mais personnellement je peux que soutenir ce changement. Et puis aussi relever l'hypocrisie du point de vue de l'Occident, par exemple le gouvernement français ou les États-Unis, qui ont tellement peur de l'islamisme, mais qui n'ont aucun problème avec les pays riches musulmans, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, numéro 1, merci Qatar, le Qatar qui sponsorise partout, le Qatar qui donne de l'argent partout, Dubaï, les Émirats, on travaille avec, on achète, on vend le Louvre, on vend la Sorbonne. Il n'y a aucun problème avec ça. Et au moment de faire ces négociations, soudain, les valeurs démocratiques n'existent plus, c'est-à-dire que le fait que les droits de femmes soient complètement inexistants en Arabie Saoudite ne choque pas la France et ne la pousse pas à virer l'ambassadeur, par exemple, de la France, comme on a viré l'ambassadeur syrien. Donc, à mon avis, que faire, c'est juste un point de vue, c'est qu'il faut commencer par couper les liens économiques avec ces pays-là si on veut vraiment parler de... si on veut vraiment être contre les dictatures, pour que le discours tienne, c'est-à-dire soit on défend la démocratie, soit on la défend pas. Et on peut pas traiter l'Iran de dictature, la Syrie de dictature, mais pas l'Arabie Saoudite et toutes les monarchies du Golfe, qui sont des pays islamiques aussi. Donc on peut pas aussi avoir peur d'un certain islamisme et pas d'un autre quand il y a de l'argent, quand il y a des intérêts économiques. Voilà, donc je pense que les médias ne mettent pas assez en valeur cette hypocrisie-là. Voilà.
Qu'en penses-tu ?
Je partage beaucoup de ce qui vient d'être dit. Hein. Pas tout, mais une grande partie.
Je serais plus prudente sur le Qatar, parce que je pense que dans ce qui va se dessiner au Mali, le Qatar a certainement un rôle important à jouer qu'on ne voit pas encore.
Ouais. Par exemple, entre parenthèses, y a, les bars au Qatar sont interdits aux femmes qatarites.
Oui, non, mais ça... C'est...
Oui, mais bon, après, quand il s'agit de faire des événements culturels et tout ça, je pense que c'est le devoir des artistes, en tout cas, pas des organisateurs, de mettre ces questions en valeur. C'est-à-dire, on va dans un pays, on accepte leur argent, on accepte de travailler là-bas. Après, il faut être sincère dans la démarche.
Oui, non, ce que je retiens beaucoup de ce que vous venez de dire, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. C'est vrai que les dictateurs hier étaient accueillis à bras ouverts par l'Occident. Ensuite, on les voue aux gémonies. Et comme on en accueille d'autres à bras ouverts, qu'on sera amené à vouer aux gémonies également. Et ça, on ne prend pas de leçon. Je veux dire, bon, je ne vois pas de grande différence, malheureusement, entre les dictateurs qui sont partis et ceux qui les remplacent, qui le deviendront assez vite. Malheureusement, c'est... Parce qu'on se souvient bien que tous ceux qui sont partis ont été accueillis, on ne parlait que de la France, à bras ouverts. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus dictateurs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans ou 3 ans? Là, je demande à savoir.
Je pense que le vieillissement.
Le vieillissement, la corruption, ça existait déjà depuis très longtemps. Ça existait depuis très longtemps, sauf qu'on veut le voir, on ne veut pas le voir. Donc aujourd'hui, en effet, il y a des chefs d'État qui sont très fréquentables, comme dit madame qu'on embrasse sur les deux joues, en fermant les yeux sur leur corruption, sur l'état de leur peuple.
Il manque beaucoup partout dans le monde de ligues athées, si je peux me permettre de donner mon point de vue à moi. Hein. Mais ça, c'est très difficile à monter. Mais ça serait ça la solution, qui est, comme il y avait eu une internationale socialiste autrefois, une ligue athée internationale. Je m'avance un peu trop loin, et puis en plus je prends des risques. Mais ça fait rien. Vous aviez autre chose à dire, madame, ou... C'était juste ça votre question.
Oui, Ligue athée, c'est intéressant, mais je pense que...
Non, là, vous n'avez plus le micro.
Oui. Non, c'est... Non, c'est bon, je vais me répéter.
Arwa Desper, qui est l'actuelle directrice de la Maison des Cultures du Monde et qui a dignement succédé à Cheikh Canada. Arwa Desper.
Merci. Moi, j'aimerais te poser une question, chérie, sur... en regardant... dans le passé, avec toute ton expérience, tout le travail que tu as fait, et en revenant un peu en France, les infos, par exemple, que j'ai pu écouter ce matin sur un camp de Rome qui a été brûlé par les habitants à Marseille, est-ce que tu penses, aujourd'hui, avec toute ta sagesse et toute ton expérience, que la culture peut faire quelque chose ou pas. Est-ce que tu penses que la culture doit sortir, ou l'action que tu as faite doit sortir du cadre d'une institution, du cadre d'un théâtre, et aller à la rencontre des gens qui ne viennent pas? Est-ce que ça a du sens et est-ce que ça peut faire quelque chose?
Je crois que je l'ai dit en tout début de cet entretien, que en parlant de la Syrie, pays où se sont succédées les cultures et les civilisations, qui se sont toutes détruites, autodétruites, faites la guerre. Donc je crois que, malheureusement, c'est une utopie que de penser que la culture peut changer les choses. C'est dans la nature humaine et ça va continuer et il y aura toujours des guerres. L'UNESCO a été créée parce que c'est dans l'esprit des hommes qu'est née la guerre, qu'il fallait, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis? Qu'ont fait les Nations Unies depuis qu'ils ont été créés pour limiter les guerres, pour empêcher les guerres, pour faire tout ça? Rien, ils ne peuvent pas.
En revanche, il y en a un qui a inventé l'idée de révolution culturelle et on ne sait toujours pas le nom du million non que ça a fait. Il y en a un qui a inventé l'idée de révolution culturelle pour aller, hein, et on ne sait toujours pas le nombre de millions de morts que ça a causé. Donc, mais moi, je voudrais bien ce que veut dire Arbad. Quand le Living Theatre, qui a fait tant de mal à Jean Vilar, qui a crevé le cœur de Jean Vilar, était une façon de sortir. Enfin, je pense que c'est plutôt de ce côté-là que Arbad, je pense que c'est ça dont tu veux parler.
Je veux parler par rapport à l'action de Shérif, qui l'a menée, c'est la connaissance de l'autre. Connaître l'autre.
Et toi, tu voudrais qu'on sorte plus.
Aussi, on cherche à connaître l'autre pour se connaître soi-même. Parce que l'autre fait partie de nous. On n'est pas complètement séparé de l'autre. Mais est-ce que c'est élitiste? Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la société? Parce qu'on ne vit pas tout seul entre nous.
Alors, ça, c'est. Alors. C'est une. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Mais il faut savoir que c'est la tentation mer rouge. Hein, considérer que les élites sont à détruire, c'est quelque chose d'extrême.
Non, je ne parle pas d'élite à détruire, je parle de transmettre cette envie de connaître l'autre.
Tu parlais du camp Rome. Elle est pourtant assez connue en France, la culture Rome. Tony Gatliff a fait beaucoup pour ça. Il a rempli les salles de cinéma. Ce refus est incompréhensible. On ne peut pas dire que ça soit une culture méconnue.
Moi je crois, si tu veux, avec le temps, qu'il y a beaucoup de phrases convenues, de concepts convenus, mais qu'on ne doit pas remettre en question parce qu'ils font partie, je dirais, de la vie. Quand on parle justement que la culture peut faire ça ici, si on ne le disait pas, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait peut-être moins de culture, peut-être pas, peut-être que ça continuerait. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe beaucoup, par exemple, dans les choses acquises, c'est quand on parle de développement durable. Tout est orienté vers le développement durable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la culture et le développement durable? C'est des mots qui sont à la mode et qu'on place. Et on verra que les phrases ont évolué dans le temps, que ces formules changent tous les 5-10 ans. Il y a une nouvelle formule qu'on invente pour donner un moteur à quelque chose. Bon, il y a notre époque, dans les années 60, on parlait de la culture et de la révolution. C'était la culture qui pouvait faire la révolution, qui pouvait changer le monde. Comme Brechtien, moi j'y croyais. Est-ce qu'elle a changé le monde, la culture? Est-ce que le théâtre a pu faire bouger les choses? Je le crois malheureusement non. D'un côté, il y a quelques individus qui seront sensibilisés, de l'autre, tout le reste, et va aller dans l'autre sens. On voit qu'aujourd'hui, plus que la culture, plus que tout ça, c'est les moyens de divertissement de masse qui ont du pouvoir. C'est les communications.
Mais Arbad a commencé par dire que le camp de Rome avait été brûlé à Marseille. Il faut donc lui répondre sur...
Oui, oui.
Hein?
Oui, mais je veux dire, bon, c'est pas la culture qui peut empêcher qu'il y aura des gens qui brûleront à notre camp de Rome. On ne croit pas.
Si, moi je pense que si. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. Ce qui a été brûlé, c'est ce qui restait du camp de Rome. C'est ça. Ce qui a été brûlé, c'était les déchets du camp de Rome. C'était des bouts de planches. C'est pas le camp de Rome qui a été pris d'assaut par les gens qui l'ont brûlé. Pardon ? Si on veut corriger ça, il faut prendre le micro.
Je peux intervenir ?
Oui, bien sûr. Où êtes-vous ?
Je suis là.
Pardon, oui.
Bonsoir, shérif. Je suis beaucoup... Philippe Aïn. Je suis beaucoup moins pessimiste que toi, aussi bien sur le rôle de la culture que sur ce qui se passe actuellement dans les pays arabes. Sur le rôle de la culture, tu dis que la culture n'a servi à rien, c'est-à-dire tu prends ces dernières décennies. Je ne dirais pas ça. La culture, on ne sait pas si elle a servi à quelque chose. On ne peut pas dire qu'elle n'a servi à rien. Ce qui est certain, c'est que ça a permis au monde d'aller moins mal. La culture, c'est la recherche du beau. Alors, on favorise ceux qui sont en mesure d'y accéder. On aide ceux qui ont envie de voir le beau, d'aller voir ceux qui ont pu faire ce beau. C'est ça, la culture. Et ça éloigne de l'esprit de violence. Ça, c'est, je dirais, en deux mots, ce que je voulais dire sur la culture pour manifester un petit peu plus d'optimisme que ce que j'ai entendu ce soir, enfin, en tout cas vers la fin de l'intervention. Sur le printemps arabe, je suis là aussi beaucoup moins pessimiste sur le printemps arabe que tu ne l'es. Je dirais, bon, on glisse la culture à la politique, finalement, mais n'est-ce pas, dans les deux cas, des œuvres humaines ? Et je dirais, sur la politique, ce qui se passe actuellement dans le monde arabe, il y a un mouvement. Ce mouvement est magnifique. Je rejoins en ça ce que disait Madame tout à l'heure au deuxième ou au troisième rang. Ce mouvement est tout à fait magnifique. En lui-même, il est magnifique. Donc, c'est déjà, je dirais, presque une œuvre d'art, en quelque sorte. Alors, malheureusement, il est phagocyté, et tu as tout à fait raison de le signaler, on est tous d'accord là-dessus, il est phagocyté, je dirais, par des mouvements extrémistes, salafistes, Al-Qaïda, etc. Je rejoins d'ailleurs ce qui a été dit sur l'Arabie Saoudite, qui est un des pires régimes qui soit, et dont, ici, en France, on ne dit jamais rien, rien de mal, rien, pratiquement rien. On n'a pas arrêté d'insulter le régime syrien, qui ne méritait probablement pas beaucoup d'éloges, mais le régime saoudien est plus épouvantable encore que ne l'était le régime syrien. Ce que je veux dire, je vais finir mon intervention. Il y a un mouvement actuellement dans le monde arabe qui est absolument stupéfiant. On n'aurait jamais imaginé il y a un an et demi un tel réveil. Ce réveil est magnifique et il faut, je crois, ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie avec Ennahda, ce n'est pas dramatique, je veux dire, c'est un mouvement qui est, certes, qui prend son appui chez les musulmans, chez les frères musulmans, mais ça n'a rien de dramatique. Je dirais même chose en Égypte, ce n'est pas, je ne vois pas ça de manière dramatique.
Mais au Mali, c'est dramatique.
Alors, je suis d'accord, au Mali, mais on ne peut pas mettre sur le même plan le Mali et le reste. Justement, le Mali est ce qui se passe dans le monde arabe. Et je finirai, pardonnez-moi, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la distorsion qu'il y a aujourd'hui entre l'Occident et le monde musulman, et en particulier le monde arabe, sur le conflit israélo-palestinien. Je dirais, aujourd'hui, en France en particulier, il est impossible de dire la vérité sur le conflit israélo-palestinien. Et ça, les musulmans et les arabes le savent, ils savent ce qui s'est passé, ils connaissent la vérité, et ils ne supportent probablement pas ce silence des Occidentaux et de la France, par exemple. J'en ai fini, mais on pourra en reparler.
Et nous en avons fini de toute façon, puisque cela fait 2 heures que nous sommes ensemble. Et oui, tu vois que les 2 heures ont passé vite. s'inquiétait. Hein. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Notre prochain grand témoin sera Michel Pastoureau, le 12 octobre, que j'aurai le plaisir d'interroger à nouveau. Enfin, à nouveau. Je ferai à nouveau l'intervieweuse. Très bonne soirée à vous et merci à vous d'être venus.